On va faire l'appel. Il y a des trous dans les rangs, mais enfin, tant pis.
T'as les pouvoirs, Michel. Le quorum est atteint. On peut s'asseoir, Jean, si tu veux.
Voilà. Alexandrine, Mlle Picard, allez-y. L'appel, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur le maire. Renoux, Claude.
Oui.
Madame Lombardi, Michel.
Oui.
Monsieur Le Pénec, Jean-Michel.
Présent.
Monsieur Charpie, Patrick.
Présent.
Madame Levillain, Nathalie.
Présent.
Monsieur Boris, Jean.
Présent.
Monsieur Coudray, Jean.
Oui.
Madame Guinmer, Claire.
Oui.
Madame Hureau-Juguet, Marie-Françoise.
Présent.
Monsieur Bénard, Jacques.
Présent.
Monsieur Loiseau, Guillaume.
Présent.
Madame Hervé Renoux, Evelyne.
Oui, pouvoir à Madame Leville. Et je crois qu'elle doit arriver un petit peu plus tard. Hein. Voilà.
Monsieur Huchet, Jacques.
Où est-ce qu'il est, Jacques? Alors, à Jean-Michel Le Pénec, Jacques.
Huchet. Madame Blanc, Evelyne.
Michel Redouté, à son pouvoir.
Madame Redouté, Michel.
Oui.
Monsieur Lognonnet, François.
Présent.
Madame Flo, Véronique.
Présent.
Madame de Racarrière, Corinne.
Présent.
Madame Gauthier de Saint-Jean, Isabelle.
Présent.
Madame Leverger, Sylvie.
Présent.
Madame Pinel, Claire.
Présent.
Monsieur Allaire, Yves.
Monsieur Allaire, Yves, à moi.
Oui. Alors, monsieur Allaire a donné pouvoir à
Lombardie.
Madame Lombardi. Ah.
Madame Hervé, Isabelle.
Hervé, Isabelle, elle est là.
Présente.
Monsieur Delavaux, Yann.
Il a donné pouvoir à Madame Guidemer.
Monsieur Nouvion, Marc.
Présent.
Madame Descaisses, Caroline.
Présent.
Madame Schwab, Valérie.
Présent.
Monsieur Naclé, Cerruti, Pablo.
Pas donné de pouvoir. Absent. Alors, ouais.
Monsieur le mari Romain.
Le marié Romain, ben, il n'est pas là, il va peut-être arriver un peu plus tard. Voilà.
Monsieur Guillard, Kevin.
Monsieur Guillard a donné pouvoir à Monsieur Charpie.
Madame Le Talec, Michel.
Oui, présent.
Madame Hervé, Christine.
Présent.
Monsieur Cid, Pierre.
Non, il n'est pas là.
Mais il est absent.
Madame
Kervenik, Christine.
Monsieur Perrin, Madame Le Talec, oui, c'est ça. Hein.
Madame voilà. Kervenik, Christine.
On n'a pas de pouvoir pour elle.
Monsieur Perrin, Stéphane.
Et il a donné pouvoir à Madame Le Talec, oui, c'est ça. Oui.
Monsieur Granchet, Benjamin.
Pas de pouvoir.
Monsieur Lefebvre, Dupuis, Patrick. Madame Le Hérissé, Marie-Christine.
N'a pas de nouvelles, non.
Monsieur Bessèche, Serge.
Présent.
Monsieur Lurton, Gilles.
N'a pas de nouvelles de notre député.
Madame Legagne, Anne. Et Monsieur Belloir, Nicolas.
Donnez pouvoir à Monsieur Lefebvre. Voilà. Allez, on va commencer l'ordre du jour à l'heure, comme d'habitude. Alors, je vous indique que on va changer un petit peu l'ordre du jour. Mais avant de commencer l'ordre du jour, si vous voulez bien m'écouter, s'il vous plaît, voilà, on se met bien tous ensemble. C'est vrai, il y a un petit peu de brouhaha, mais c'est pas. Allez, monsieur. Voilà. Monsieur Lurton, bonjour. Alors, au moment où vous arriviez, j'allais justement. Avant d'ouvrir l'ordre du jour du conseil municipal, vous demander un petit moment de recueillement. Parce que vous savez que lors des attentats de Londres. Un des jeunes qui a été assassiné dans des conditions effroyables et qui s'appelle Philippe Pijard. Philippe, c'est son père qui s'appelle Philippe. Alexandre Pijard, donc, a des grands-parents qui habitent ici, rue Saint-Vincent, intramuros, et que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ses grands-parents sont en retraite à Saint-Malo depuis 3 ans environ. Donc, vous avez eu écho de cet événement-là, évidemment, et de ces circonstances-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a prolongé la mise en berne des drapeaux sur Saint-Malo un petit peu au-delà de ce qui se pratique normalement. Et je me suis rendu hier au Père Lachaise à Paris pour l'inhumation, enfin l'incinération d'Alexandre Pijard dans des circonstances que vous imaginez être extrêmement émouvantes. Longue cérémonie de près de 2 heures. Donc je voudrais vous demander de vous mettre debout et d'observer 1 minute de silence. Merci. Donc nous avons déposé d'ailleurs en votre nom, au nom de la ville de Saint-Malo, une gerbe pour évidemment manifester la solidarité de l'ensemble des Malouins à cette famille méritante. Voilà. Je pense qu'on ne va pas pouvoir fonctionner dans ces conditions-là si on ne respecte pas les conditions normales de fonctionnement du conseil municipal. Il va falloir faire quelque chose. Hein. Ce n'est pas possible. Chacun a le droit de manifester son opinion, mais pas à ce point. Et pas dans ces conditions. Voilà, donc on va continuer tout de même. J'espère que les choses vont se calmer. Monsieur Sitte est donc arrivé, merci, j'ai fait l'appel, vous étiez absent, vous avez noté absent. Voilà, et vous avez donc le pouvoir de monsieur...
Et madame Chiaroni qui va arriver un petit
temps. D'accord, bon. Donc pour l'instant, elle n'a pas de pouvoir, pour l'instant. Hein. Monsieur... Alors, autre... Je voulais vous dire aussi que nous allons retirer... Attendez, non. Attends, moi, j'attends 5 minutes. Enfin, écoutez, hein, c'est à eux de se calmer, c'est pas à moi, non? Puis quoi encore? Vous pouvez aller leur dire, si vous voulez, d'arrêter. Hein. Bon, d'accord, parce que vous avez... Oui, nous avons travaillé ensemble sur ce projet. Merci, merci. Non, j'ai pas entendu. D'accord. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris cette position... Micro, on vous demande de prendre le micro.
Je pense que vous avez dû entendre les manifestants huer quand j'ai tenu ces propos-là, dont je les ai tenus alors que je ne suis pas dans la majorité.
Je vous remercie de les avoir tenus, puisqu'il y a eu effectivement une position, je dirais, cohérente et unanime de la part de la Commission dans toutes ces tendances, puisque toutes les tendances sont présentées pour que ce projet progresse. On a fait un travail de recherche du meilleur projet ensemble. Donc je vous remercie de l'avoir exprimé.
Je vous en prie, et juste une chose, je trouve normal que quelqu'un élu, alors je l'ai fait, mais a priori un autre aurait pu le faire, qu'un élu aille s'exprimer quand il y a une population comme ça devant la mairie. Donc, oui, c'est pour ça que je suis allé et que j'ai tenu des propos qui m'ont permis de recevoir une huée générale. Voilà.
Voilà. Merci. Je voulais vous dire donc, avant de commencer l'ordre du jour, nous retirons les questions numéro 12 et 13. Hein, c'est celles qui concernent les terrains EDF, GDF sur l'avenue Aristide Briand, parce que les discussions sont toujours en cours, les projets de protocole ne sont pas finalisés, donc on peut pas passer ces deux délibérations aujourd'hui. Donc on les passera à la rentrée de septembre. Voilà. Et puis dernier point, peut-être, c'est d'excuser par avance Madame Guinemer, qui va nous quitter un petit peu rapidement. Bon, elle a besoin de se reposer un petit peu. Et donc, je vais vous demander d'ailleurs de pouvoir traiter en priorité les questions qui relèvent de sa délégation, c'est-à-dire les questions 28, 29 et 30. Voilà, donc je vous demande d'aller directement à ces délibérations-là. Donc la 28 porte sur la répartition des crédits destinés aux animations sportives estivales. Madame Guinemer, à vous, la 28.
Oui, merci monsieur le maire. Donc, je m'excuse parce que j'ai une petite opération. Effectivement, la position assise n'est pas toujours facile et je sors du conseil régional, donc la journée a été un peu longue. Voilà, donc la répartition des crédits destinés aux animations sportives estivales, donc volet vacances, hein, volet vacances tout le monde connaît maintenant puisque on en est, je pense, à une bonne quinzaine d'éditions sur la plage de Rochebonne, et donc on attribue une subvention de 8000 euros pour le fonctionnement de cette animation. Pour information, puisque ça a été une question qui a été posée en commission, c'est un peu moins de 800 jeunes, mais quasiment 800 jeunes d'accueillis sur 4 semaines d'animation, accueillis à la journée, hein, avec des encadrants issus des différents clubs de volley de la région Malouine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur...
Oui, j'allais le demander.
Pardon.
Il n'y a pas de questions, non ? Ça va ? Bon, personne, j'imagine, ne s'oppose ni s'abstient. Merci. La 29 aide aux clubs participant aux animations sportives.
Voilà, donc là,
tickets sport.
Tout à fait. Donc les tickets sport sont des animations, enfin des animations sportives qu'on propose aux jeunes durant les vacances scolaires hors vacances de Noël, puisque pendant les vacances de Noël, il n'y a pas de tickets sport. Donc on a accueilli cette année 6139, même un peu plus que ça, 6084 enfants avec une quarantaine d'animations sportives. Et donc on a une enveloppe fixe qu'on répartit selon la fréquentation, le nombre d'encadrants que ça demande. Et donc on fait une quote-part par association et on leur redistribue cette enveloppe qui est fixe tous les ans. Il faut savoir que quand on est arrivé, enfin, au début de la mandature, on était à 4900 jeunes d'accueillis pendant les tickets sport et on est monté à un peu plus de 6000 enfants, donc de l'agglomération Malouine accueillis pendant ces tickets sport. Voilà.
D'accord. Des questions aussi ? Non ? Alors qui s'oppose ? S'abstient ? Personne ? Merci. La 30e, c'est l'aide aux manifestations sportives, voilà, à l'initiative des clubs ballons. Il s'agit en fait de distribuer l'enveloppe annuelle qui est en réserve pour faire face à des demandes au fur et à mesure de l'année. Madame Guinemer.
Tout à fait. Donc on la répartit en deux fois dans l'année. Donc une fois sur le conseil municipal du mois de juin et une fois sur le conseil municipal du mois de décembre, puisque certains tournois ou certaines animations sportives ont lieu en deuxième moitié d'année. Et donc selon le bilan, puisqu'on demande un bilan de ces manifestations sportives, donc selon le bilan de ces manifestations sportives, on décide des clubs pour que sur ces manifestations sportives, voilà, ils ne soient pas déficitaires et qu'ils aient une vraie valeur ajoutée à l'effort que peut occasionner l'organisation d'une manifestation. Donc vous avez la répartition, hein, donc les tournois de football, on a eu le meeting d'athlétisme du 28 avril qu'on aide également, on a la section tennis qu'on a aidé pour différents tournois, on a la section rugby qu'on a emmené voir un match de pro D2 à Havane et qu'on aide sur le transport. On a aidé également le gala de boxe du Central Ring Malouin du 29 avril. On a aidé Easy Roller dans l'organisation du championnat de Bretagne à la salle de Rocabec, qui a eu lieu au mois de janvier. Et puis on aide aussi le Rayon d'Or Castel Malouin pour l'organisation de leur course cycliste Ransem Road.
D'accord. Des questions aussi là ? Non ? Pas de problème ? D'accord, ben merci. Et personne ne s'oppose, il s'abstient non plus. Très bien. Bon, ben, Madame Guinemer, repos. Madame Guinemer, repos. Est-ce qu'on a une procuration ?
Mais non, parce qu'elle a déjà une procuration pour Yann.
Ah, ça fait deux. Oui, c'est pas très futé, les procurations. Procuration.
Je vais attendre un petit peu pour le budget.
Bon. Ah oui, parce qu'il faudrait quand même un peu s'occuper du budget, c'est quand même un acte fondamental, sans trop vous demander. Voilà, donc maintenant je reviens à l'ordre du jour. Donc je dis à nouveau à ceux qui n'étaient peut-être pas présents, c'est le retrait de la question 12 et 13, hein, pour ceux qui n'étaient pas arrivés. Monsieur Lurton peut-être n'était pas arrivé à ce moment-là. Donc les deux délibérations qui portent sur les terrains EDF-GDF sur l'avenue Aristide-Briand. D'accord ? Voilà. Et à ce point, avant de démarrer l'ordre du jour dans sa forme la plus normale et à partir de la question 1, je vais évidemment en profiter pour féliciter notre nouveau député, Gilles Lurton. Voilà. Ben, bravo. Merci d'être au service de notre circonscription. Et si vous avez quelques pouvoirs sur les sirènes, c'est le moment d'en profiter. Voilà. Voilà. Allez, on va passer aux finances, à la question numéro 1. Monsieur Le Pennec, peut-être si sur les questions, les comptes rendus des décisions, pas de questions. Voilà, compte de gestion du receveur principal. Allez-y, monsieur Le Pennec, la question 1.
Bien, merci. Monsieur le maire, donc la question 1, si vous êtes d'accord, on va la traiter rapidement, puisqu'il s'agit en fait de constater l'accord, ni plus ni moins, des écritures qui ont été ordonnancées par la ville, par le maire bien sûr, et qui ont été enregistrées par le comptable public. Voilà, il s'agit donc de constater que les soldes qui figurent au compte de gestion sont identiques entre les écritures de la ville et les écritures du comptable public.
Allez, vous fermez un peu la porte, là.
Je vais fermer la porte. Bon.
Merci. Voilà. Allez, on continue. Bon. Voilà, des questions sur la... Pardon ? Ah, il faut laisser la porte ouverte, paraît-il. C'est une obligation. Voilà, voilà. Bon, ben, on peut ouvrir celle-ci, il y en a une deuxième. Voilà, mais on peut fermer la fenêtre quand même, oui, ce serait mieux. Désolé, mais... voilà. L'autre, oui. Merci. Alors, sur la première, tu as fini la présentation.
Voilà, j'ai terminé la présentation.
La présentation est finie. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? Pas de questions ? Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions ?
Oui, apparemment.
Oui. Des abstentions ? Non plus. Merci à tous. Le compte administratif.
Allez, retour.
Voilà.
Voilà. De manière.
Voilà.
De manière à avoir une présentation un peu plus dynamique.
S'il vous plaît, on n'a pas de public ici. Hein, c'est. Il faut se mettre plus loin. Vous ne pouvez pas rester là, monsieur. Ah, vous êtes journaliste, c'est ici, alors. Journaliste, c'est là. Voilà. Allez-y. Bon. On est sûr, là. Ouais. Le quick là, c'est pas une alarme incendie, ça. Non, il faut. Madame Lay, vous essayez d'aller à l'autre bout là-bas, c'est mieux quand même. Hein. Passez par le milieu si vous voulez là. Passez là. Voilà. Allez. Le compte administratif.
Alors,
monsieur Le Pennec.
De manière à avoir une présentation un peu plus dynamique, on va vous présenter un certain nombre de transparents en fait qui résument les opérations du compte administratif, et on va commencer, si vous voulez bien, par la présentation donc des recettes réelles de fonctionnement, hein, avec leur répartition de l'année 2016. Voilà, ça permet de voir l'évolution des diverses recettes, notamment la fiscalité directe, hein, qui représente 40% de nos recettes, hein, elle représentait 41% l'année dernière. La fiscalité reversée par SMA, qui elle demeure stable d'une année sur l'autre, hein, ça changera l'an prochain, on le verra tout à l'heure, dans le cadre des transferts de compétences. Les dotations et participations, hein, qui représentent 14 millions d'euros, c'est le camembert vert, hein, elle représentait 20% l'an passé, hein, c'est lié notamment à la baisse des dotations. Donc voilà, l'objectif de ce tableau, c'est bien de figer un certain nombre de la composition de notre budget, hein, qui par rapport à l'année dernière n'a que peu évolué. Dans le cadre des recettes de fonctionnement, donc vous avez sous les yeux le montant global de ces recettes qui s'élève à 76 millions contre 77 millions l'année dernière, hein, soit une baisse de 1,5% des recettes de gestion courante. Et quand on prend l'intégralité des recettes de fonctionnement, elles baissent de 2,9%. Alors dans la composition de ces recettes, hein, vous noterez que le poste le plus important est constitué par les impôts et taxes, hein, notamment les recettes fiscales, qui dans les 56 millions représentent 32 millions d'euros contre 31 millions l'année dernière, soit une évolution de plus 1%. Hein, là, vous l'avez dans le détail, hein, je parle bien de la composition des impôts et taxes. Donc 1% d'augmentation, ce qui correspond à peu près à la revalorisation des bases, sachant que si vous avez lu le document, vous avez bien noté qu'il y a un petit peu quelque chose qui est anormal, puisqu'on a une augmentation de la taxe foncière et une baisse de la taxe d'habitation, alors que les bases auraient dû rester stables. On subit à ce niveau-là l'effet de la baisse de la loi qui avait été votée il y a maintenant 4 ans ou 5 ans sur la baisse de la demi-part qui avait généré un tollé général, notamment en supprimant ou en créant de nouveaux assujettis à la taxe d'habitation. Taxe d'habitation qui avait été compensée par l'État, on le reverra tout à l'heure, hein, mais l'anomalie, elle figure à ce niveau-là. Hein, c'est une baisse apparente de la taxe d'habitation qui fait l'objet de compensation par l'État. On va le voir tout à l'heure dans le budget supplémentaire. Donc au niveau des trois taxes, hein, donc une augmentation de 1%, au niveau des produits de la fiscalité directe, qui représente 9,5 millions, toujours dans les 56 millions, elles sont demeurées stables. Il y a 1,5% d'augmentation. À noter une fois encore une augmentation de la taxe de séjour de 10% par rapport à l'année dernière, hein, qui démontre le dynamisme du tourisme de la région, puisque les tarifs n'ont pas changé, hein. Et un deuxième point encourageant, c'est le prélèvement sur les produits des jeux du casino, hein, qui pour la première fois depuis 5 ans augmente de 2,71% et s'établit à 1 200 000 euros. Hein, et toujours dans le détail des chiffres qui vous ont été adressés, hein, vous noterez la baisse de la taxe sur la publicité extérieure, hein, qui est passée de 850 000 euros à 300 000 euros. Alors là, on a un double effet, c'est que l'année dernière, on avait missionné un AMO pour collecter cette taxe qui avait fait un travail important, mais qui portait non seulement sur l'année 2015, mais également sur l'année 2014, et cette année on a eu la prise en compte qu'on est une ville de moins de 50 000 habitants, ce qui fait que ça baisse par rapport les tranches de taxation sont moindres, la ville étant inférieure à 50 000 habitants, ce qui veut dire que si on repasse à plus de 50 000 habitants, on retrouvera un produit équivalent. Donc voilà pour ce qui concerne les produits. Concernant les dotations, subventions et participations, on va revenir au tableau. Dotations, subventions et participations, 14 millions d'euros contre 15,5 millions l'année précédente. Hein, là, on a deux effets. On a tout d'abord la baisse des dotations de l'État, hein, la baisse de la DGF de 10%. Et on a par ailleurs... la baisse des compensations fiscales de l'ordre de 18%, hein, baisse des compensations fiscales, on y reviendra tout à l'heure dans un moment plus calme, mais toujours ce rappel important, hein, au niveau budgétaire, on le verra tout à l'heure, c'est que la baisse des dotations qui est affichée officiellement dans le cadre du redressement des comptes publics s'est traduite sur 3 ans sur une baisse de 3,5 millions d'euros, mais que cette baisse des compensations fiscales a atteint en cumulé pratiquement 2 millions d'euros c'est un chiffre important, 2 millions d'euros en 5 ans, et ses compensations fiscales ont baissé de 40%. Raison pour laquelle, tout à l'heure, quand j'évoquais un transfert de la baisse de taxes d'habitation qui doit être compensée par l'État, il y a toujours un risque sur un moyen terme, quand il y a ce type de compensation, de se les voir rogner petit à petit, en disant la première année, allez, on va vous compenser un pour un, mais avec le temps, ça tend à s'effilocher. Sur un aspect purement économique et non pas politique, un transfert de la taxe d'habitation à l'État peut entraîner quelques craintes au niveau des communautés si jamais elle n'était pas, d'une part, compensée intégralement, premièrement, et que les bases ou tout le travail qui est réalisé en matière d'habitat, en matière de foncier, ne soit pas compensé, puisque quand il y a compensation, c'est figé à un montant donné, et là, voilà, le risque qu'il peut y avoir. Donc voilà, en termes des recettes de fonctionnement, ce qu'on pouvait dire, les produits exceptionnels, hein, c'est essentiellement des produits de cession. Hein, là aussi, je passe rapidement dessus, puisque vous avez le détail. L'évolution de la dotation globale de fonctionnement, hein, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de péréquation, hein, vous la voyez, donc une baisse de 3,5 millions. Hein, cette baisse-là n'intègre pas la baisse des compensations fiscales que je viens d'évoquer. Dans les répartitions des charges de fonctionnement, hein, une répartition elle est sensiblement égale à l'année précédente, donc avec les charges de personnel qui représentent 53% des dépenses de fonctionnement. Hein, ensuite, on retrouve ce qu'on appelle les autres charges de gestion courante. Hein, on va en voir le détail à hauteur de 15 millions d'euros. Et les charges à caractère général qui représentent 21% du budget. Hein, 21% du budget est représenté pratiquement 22% en N-1. Deux points importants, si on regarde les postes les plus importants, au niveau des charges de personnel, dans les tableaux qui vous ont été communiqués, on voit une variation de 1,48% de la masse salariale entre 2015 et 2016. Sur l'année 2015, hein, parce que le chiffre m'avait un petit peu surpris, sur l'année 2015, on a eu des remboursements exceptionnels qui, en fait, n'étaient pas indirectement intégrés dans la masse salariale. Hein, c'était soit des remboursements d'assurance, soit sur des remboursements de capitaux d'essai. Donc, si on raisonne à périmètre constant entre 2015 et 2016, la variation de la masse salariale est inférieure à 1%. Hein, je tenais à le signaler parce qu'il y a eu deux points importants. Dans l'année, il y a eu la révision de l'indice de 0,6%, d'une part. Il y a le GVT, le glissement vieillesse automatique au niveau de chaque agent. Donc, le fait de maintenir, de contenir la masse salariale dans une évolution de moins 0,9%, c'est relativement intéressant puisque si on raisonnait en francs constants, bien sûr, elle augmenterait plus que cela. Donc ça traduit un maintien, voire une diminution des charges de personnel. De même, au niveau des charges à caractère général, donc après une baisse constatée en 2015, elle diminue cette année encore de 5%, avec des baisses relativement conséquentes, on va les voir, puisqu'on a des économies de plus de 11% réalisées sur les achats. Sur les autres achats, c'est tout ce qui concerne les consommations de la ville, et un autre poste aussi sur les fêtes et cérémonies, on a une diminution de 55% par rapport à l'année passée. Donc une bonne maîtrise des coûts et un effet intéressant au niveau de cette baisse des charges. Les autres charges de gestion courante, vous en avez le détail également, 15,4 millions, 16,1 millions. 15 millions 4 en 2016, 16,1 millions en 2015. Hein, des variations qui concernent essentiellement les autres contingents et participations. Hein, on est passé de 3,5 millions à 2,7 millions. Ça concerne essentiellement les redevances d'eau pluviale versées au budget assainissement, où l'année passée, on avait eu l'arrêt du contrat Veolia avec des régularisations relativement conséquentes, ce qui explique la variation de pratiquement 800 000 euros entre 2015 et 2016. Au niveau des charges financières, là aussi un travail intéressant puisque on est à moins 13% sur la période. Hein, on verra tout à l'heure dans, quand on décrira le détail de la dette, puisque monsieur le maire doit présenter également un rapport sur la dette. On verra tout à l'heure l'évolution de la dette qui est assez intéressante. Un point quand même, parce qu'il est aussi intéressant, c'est sur notre ligne de trésorerie, puisque sur l'année 2016, nous avons eu 72,94 € d'intérêt. Donc c'est quand même assez intéressant, ce qui veut dire que sur l'année 2015, l'année 2016, pardon, nous n'avons pratiquement pas utilisé notre ligne de trésorerie, ce qui permet là aussi de contenir la charge financière et d'avoir cette baisse de 11,83%. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, donc vous avez leur évolution sur ce tableau. Hein, donc les dépenses de gestion courante qui ont baissé de 1,4%, charges financières moins 13%, les charges exceptionnelles moins 44%, hein, la différence entre les 500 000 et les 895 000. Je rappelle que l'année dernière, dans le cadre de la cession de l'hôtel des impôts au groupe Bardon, on avait passé un accord avec l'État disant qu'on devait reverser une partie de la plus-value. Il y avait eu 500 000 euros de reversés à l'État. Ça explique l'écart aussi important au niveau des charges exceptionnelles, sachant que les dotations aux provisions, comme chaque année, concerne notamment la route du Rhum, hein, puisque ça va faire maintenant la troisième année, qu'on provisionne 300 000 euros. Et comme la route du Rhum, quand elle va tomber, on aura une charge quand même beaucoup moins importante à supporter dans le budget. Hein, le reste des provisions, 83 000 euros, concernant des contentions en cours. Et on verra tout à l'heure dans le cadre d'une DM qu'on va annuler d'ailleurs une partie de ces provisions. Le tableau le plus intéressant, c'est certainement celui-là, hein, où on voit l'évolution de l'autofinancement et notamment l'évolution de notre épargne brute, hein, qui atteint pratiquement 10 millions d'euros sur la période, hein, avec le différentiel en fait entre les recettes de fonctionnement, 76,9 millions, et les 67 millions de dépenses de fonctionnement. Donc un autofinancement brut qui ressort à 9,9 millions. Grâce à cet autofinancement, un certain nombre de dépenses d'équipement ont été réalisées, avec pour l'exercice 2016 un montant d'investissement de pratiquement 15 millions. Je tiens à préciser qu'il s'agit en l'occurrence des montants mandatés. Ça veut dire que les restes à réaliser, je rappelle que les restes à réaliser, ce sont des opérations qui ont été engagées, mais qui ne sont pas terminées. En l'occurrence, au cours de l'année 2016, on a eu des travaux conséquents, je pense au boulevard des Talards, je pense au boulevard Chateaubriand, je pense à la salle Surcouf, le stade de Marville, voilà, qui étaient engagés dans le deuxième semestre 2016 et qui généraient des restes à réaliser relativement conséquents, ce qui fait qu'on a un taux de réalisation budgétaire par rapport au mandaté qui est de 48%, alors que si on tient compte des dépenses engagées, y compris bien sûr celles qui ont été mandatées, on arrive pratiquement à 80%. Voilà. Dans un budget de fonctionnement, on est pratiquement à 100%. Un budget de fonctionnement, en termes de recettes de fonctionnement, on était même à 101% pour 100 prévus. En dépenses de fonctionnement, on était à 95% pour 100%. En investissement, c'est différent, puisqu'on considère que sur un chantier, on prend un exemple des Talards qui va coûter 3 millions d'euros. Si on a engagé 1 million d'euros, on est obligé de, bien sûr, de budgéter les 3 millions. Si on a engagé qu'un million d'euros à la fin de l'année, eh ben, c'est 2 millions de restes à réaliser. Ce qui explique ces écarts et ce qui explique, je dirais, le montant relativement, enfin, pas relativement faible, parce que 15 millions, ça reste conséquent, mais engagé sur 2016, mais avec des restes à réaliser, bien sûr, conséquents, qu'on va retrouver sur l'année suivante. La structure même de nos dépenses d'équipement, vous l'avez sous les yeux, hein, avec le point le plus important au cours de l'année 2016 qui concerne l'aménagement et les services urbains, hein, qui représente 8 282 000 euros. Hein, le camembert de droite représente la structure de ces 8 282 000. Hein, dans ces 8 290 000, 5 200 000 ont été consacrés à l'aménagement urbain, 1 800 à la voirie, hein, 420 000 à l'espace public et 580 000 aux espaces verts. Vous avez par ailleurs donc les autres postes qui ont été où il y a eu des investissements de réalisés, notamment la culture où il y a eu 2 073 000 euros, sport et jeunesse 1 572 000 et dans les services généraux où il y a 1 775 000. Les principales opérations dépenses d'équipement, hein, elles sont reprises bien sûr dans le détail dans le document que vous avez, hein, mais les principales dépenses sont reprises ici dans ce PowerPoint, hein, on voit que bien sûr ça a été le boulevard des Tallards qui a représenté 2 800 000, hein, qui est la star un peu de l'année, avec le boulevard Chateaubriand, 1 800 000 d'investissement, des acquisitions foncières à hauteur de 1 455 000, hein, je rappelle qu'une partie de ces acquisitions foncières soit sont recédés, soit sont revendus, enfin voilà, soit permettent des établissements, ça explique leur importance d'une part, mais une partie de ces acquisitions donne lieu à recettes les années qui suivent. La mairie de Saint-Servant, 730 000 euros, le sport, 644 000 pour le stade de Marville, hein, et les modernisations des moyens informatiques, 290 000 euros, hein, il y a eu là aussi un travail relativement important réalisé au service informatique en termes de logiciels, en termes de matériel, tant au niveau de la ville qu'au niveau du CCAS, de manière à pouvoir avoir des prévisions, des comptes et un suivi de gestion plus performant. Voilà sur le montant des investissements qui ont été réalisés. On va passer maintenant à la diapositive suivante, hein, qui je présente l'ensemble, hein, ça permettra, on y verra au niveau du vote après, ça permettra de rentrer, d'enfiler après les délibérations. Sur l'annuité de la dette, un point important, puisque cette annuité de la dette est passée à 9 011 000 contre 11 millions l'année dernière. Donc elle a baissé de 23%. Par rapport à N-1, hein, on est passé de 10 millions à 7,7 millions, avec un point que je tiens à préciser quand même pour être tout à fait honnête, c'est que l'année 2015, nous avions eu un emprunt de 2,1 millions, pour être sincère, plus qu'honnête, on avait eu un emprunt de 2,1 millions à la Banque Ponce. Pour être complet, excusez-moi monsieur le maire, j'ai des choses qui me fourmillent dans la tête là, et c'est assez dur de se concentrer. Donc il y a voilà un emprunt, rappelez-vous, qu'on avait fait à la Banque Postale pour du financement, préfinancement de la TVA, qui avait été traité comme un emprunt, et on avait fait cet emprunt et on l'avait remboursé dans l'exercice, ce qui entraîne des flux relativement conséquents. Malgré cela, si je corrige cet emprunt de la Banque Postale, la dette a bien baissé de 3%, encore, l'annuité de la dette a baissé de 3%, et il est intéressant de voir qu'on revient à des annuités comparables à celles de 2010-2011 au cours de l'année. Donc c'était un point important et de conséquence de cette baisse de l'annuité de la dette au niveau de l'encours même de la dette, on va voir une évolution là aussi qui est très intéressante puisque on arrive à un montant, on a baissé la dette de la ville de 4,7 millions en 2015 et on la baisse de nouveau de 700 000 en 2016 en retrouvant notamment un ratio qui est toujours intéressant, c'est notre capacité de désendettement en annuité. Et on voit que cette capacité de désendettement, hein, qui était de 9 années 4 en 2014 est passée à 6 années 7 en 2016. Hein, et à titre indicatif, je viens d'avoir un rapport de Finances Actives qui est en fait l'organisme avec lequel on travaille, organisme indépendant bien sûr, hein, qui, avec lequel on travaille au niveau de la dette de la ville, qui a souligné notamment l'amélioration en termes de dette de la ville, mais qui a également souligné son bon comportement par rapport à des villes de même strate où Saint-Malo se resitue aujourd'hui dans une position relativement intéressante, toujours par rapport à des villes de même strate, donc avec une gestion de la dette très dynamique, puisqu'on a un taux moyen de la dette qui est à 1,96% et une structure de la dette qui est 58%, 52% en fixe et 48% en variable. Voilà, une bonne structure de dette. On a un coefficient, une note de A au niveau de la dette. Enfin, toujours là aussi un coefficient qui est donné par un organisme indépendant. Ce qui veut dire que d'une part, la dette est saine, elle est bien structurée et avec un taux d'endettement qui s'est amélioré comme le démontre ce tableau. Le tableau suivant va reprendre l'ensemble de l'encours de la dette entre le budget principal et les budgets des zones, rappelant simplement que le budget des zones va varier suivant le stock que l'on peut avoir, puisque dans les actes, vous savez que quand on fait une dépense, tant qu'on n'a pas fini le budget de la ZAC, on met cette somme-là en stock et on est amené à avoir recours à l'emprunt pendant la durée de vie de la ZAC. Donc un point important donc, dans la structure de la dette, budget principal qui représente 67 millions et le budget assainissement qui représente 15 millions d'euros. D'une manière générale, un tableau qui est un petit peu compliqué, mais qui fait plaisir à voir aussi, puisque ça doit être la première fois depuis 2012, et là aussi je modère mon propos, où on a un excédent de fonctionnement, certes, mais on a un excédent d'investissement. C'est la première fois qu'on a un excédent d'investissement. Je mets en parenthèse, ou j'atténue mon propos, par rapport au taux de réalisation que j'évoquais. Si on avait plus de réalisation, on aurait eu un excédent d'investissement moindre, certes, mais c'est de dire, en résultat de fonctionnement sur l'année 2016, on est à 6 224 000 euros. Nous étions à 6 100 000 l'année en 2015 et on a d'excédent d'investissement qui est de 1 190 000 euros où nous avions un déficit de 2 640 000 l'année précédente, ce qui fait que ça nous donne un résultat de clôture positif de 7 414 000 euros. Un résultat qu'il va falloir affecter, mais j'irai sur la technique même de l'affectation, affectation que nous avons déjà fait lorsque nous avons voté le budget, puisqu'on reprend ces chiffres-là en amont. On va passer rapidement sur les affectations. Sachez que les 6,4 millions de résultats de fonctionnement sont affectés, bien sûr, à la réserve d'investissement et que le solde d'investissement est reporté sur l'année suivante. Donc une année budgétaire, ma foi, intéressante avec ce qu'on avait promis, des baisses de charges, un maintien, malgré la baisse des dotations, un maintien du niveau des recettes à un niveau pratiquement équivalent malgré cette baisse des dotations, une bonne maîtrise des charges, une bonne gestion de la dette, un maintien d'investissement conséquent et un maintien de la dette dans des proportions intéressantes puisque dans l'année 2016, nous aurons remboursé plus d'emprunts que nous en avons contractés.
Merci Monsieur Le Pennec. Ça dit bien quand ça s'arrête. Devinez. Peut-être avant de sortir pour le vote, puisque le vote du compte administratif se fait évidemment en dehors de la présence du maire, et de passer la parole à Madame Lombardi, pas de la laisser présider pendant ce vote-là, c'est quand même de revenir sur un certain nombre de points. D'abord de vous donner la parole, ceux qui souhaitent la prendre, bien évidemment. Oui, Madame Hervé, allez-y. Pardon, il faut couper là.
Merci, Monsieur le maire. C'est pour donner une explication de vote sur le fait que Michel Le Tallec, Stéphane Perrin et moi-même, nous nous abstiendrons en cohérence avec nos votes précédents. Voilà, c'est tout.
Merci. Avant de continuer, on n'a pas présenté les budgets annexes quand même. Il y a l'assainissement qui est un gros budget et là, je l'ai coupé un peu trop vite. Monsieur Le Pennec, vous pouvez
reprendre
la
merci.
Parole.
Donc on va reprendre sur les budgets annexes, sur les budgets des ZAC qui concernent les zones d'aménagement concernées, qui concernent là où c'est Langatel. Vous avez les chiffres, je passe très vite. Il y a eu très peu d'opérations. Sur les zones industrielles, il y a eu des transferts de biens, des acquisitions. Elles concernent pratiquement uniquement des transferts entre le budget des zones et le budget principal. Exemple, les locaux qu'occupe aujourd'hui la direction des finances étaient des locaux Place du Manoir qui donnaient lieu à location. Donc c'était des locaux qui figuraient dans les zones. À partir du moment où ils sont occupés par les services de la mairie, il convient que la mairie achète ces biens-là et donc ces biens ont été cédés. Voilà le type de cession qui est intervenu, qui qui n'appelle pas de commentaires particuliers. En revanche, l'assainissement, avec un montant de dépenses de 2 400 000 euros, hein, avec des dépenses qui concernent, vous en avez le détail, la rue Jacquerie, le boulevard Chateaubriand, le boulevard des Talards, donc c'est un budget qui a été en forte hausse au cours de l'exercice, mais qui dégage malgré tout en termes de fonctionnement un excédent de 3 200 000 euros et un excédent en termes d'investissement de 163 000 euros. Au niveau du port de Plaisance, hein, il a été investi 172 000 euros dans l'année, là aussi avec un excédent de fonctionnement de 95 000 euros et un excédent en termes d'investissement d'1 500 000 euros. Hein, je rappelle qu'il y a eu peu d'investissements au niveau du port, puisqu'on est dans le cadre d'une réflexion d'un aménagement global, hein, et les investissements seront beaucoup plus conséquents dans les années qui viennent. Quant au camping, hein, un déficit apparent de 76 000 euros, je dis bien apparent, puisqu'il est occasionné par les amortissements des campings, puisqu'on est obligé d'amortir les biens. Mais sachez que nous sommes passés le déficit de la section de fonctionnement des campings, il était de plus de 300 000, il est passé à 213 000, les dresses de 76 000 euros. Donc là, on arrivera carrément à l'équilibre à la fin de cet exercice.
Voilà. Il y a des questions? Oui. Peut-être. Allez-y, oui, je reviendrai après. Monsieur Cite, à vous. Et on coupe. Là. Allez, à vous.
Non, juste deux remarques. D'abord, nous, on votera pour le compte administratif, vous le savez, puisque autant le budget est un acte réellement politique, autant le compte administratif, c'est le constat de ce qui a été fait. Et pour nous, voter contre le compte administratif, ce que font souvent certains partis politiques dans les assemblées que nous dirigeons, mais voter contre, ça reviendrait à dire qu'on pense que les chiffres sont faux, qu'il y a quelque chose de malsain dans les chiffres eux-mêmes. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voté pour. Donc c'est une raison purement technique. La deuxième chose que nous voulons dire, c'est que effectivement, vous avez insisté, monsieur l'adjoint, sur la baisse de la dette. Qui nous semble être non seulement une bonne chose, mais indispensable. Non pas que nous soyons contre la dette, parce que le problème d'une dette, c'est la dette pour quoi faire. Quand on investit pour l'avenir, c'est important d'utiliser les moyens qu'on a, mais c'est vrai que la ville va nécessairement aller vers des investissements très importants, et nous pensons notamment au musée maritime. Et si on veut pouvoir avoir la liberté de travailler correctement sur ce dossier qui va être cher, même si on peut espérer des subventions importantes, j'imagine, hein, vous l'avez évoqué, on n'a pas fait le tour, mais il est important qu'on baisse la dette pour être capable d'absorber ce surcroît d'investissement qui viendra de manière assez concentrée, en fait, sur quelques années, certes. Mais voilà, donc c'est important de baisser la dette, non pas qu'on soit contre la dette, mais en prévision de ces travaux. Merci.
Merci. Qui veut intervenir ? Monsieur Bessèche.
Oui, merci monsieur le maire. Juste deux questions. Alors, première question, ça concerne le ratio de capacité de désendettement où la ville de Saint-Malo est à 6,7 années. Quelle est la moyenne pour les villes de la même strate ?
Oui, monsieur Le Pennec, vous avez la réponse ?
J'ai la réponse, monsieur le maire.
Avec micro. Voilà.
On est en moyenne, par rapport aux ensembles des collectivités, on est 5 années en dessous.
Oui, une autre question.
Deuxième question, ça concernait budget annexe du port, donc on parle d'études en réflexion. Les études sont prévues terminer quand ? Et quand pourraient démarrer les travaux ?
Pardon, refaites la question, j'étais un peu sur le port. Sur le port. Nous, on en est sur le port, c'est ça ?
Oui, au niveau de la réflexion, il est dit qu'il y a, ouais, y a des études en cours. Quand est-ce qu'elles sont prévues d'être terminées ? Quand pourraient démarrer les
travaux ? D'avoir été. Dernière réunion cette semaine avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Pour être tout à fait clair et complet aussi dans cette assemblée-là, où naturellement la démocratie s'exerce dans ses formes normales. Je vais parler évidemment devant Jean-Michel Le Pennec et François Le Lyonnais qui suit particulièrement ce dossier. Alors les études avancent, ont beaucoup avancé effectivement sur l'augmentation de capacité du port des Sablons. Nous avons un sujet, très clairement, nous avons un sujet qui est lié d'ailleurs à, ben, à la région et aussi à l'exploitant, enfin au gestionnaire actuel de la CCI, c'est la question du positionnement des pêcheurs. C'est un sujet dont les plus anciens se rappellent, puisque c'est une... Oui. Les bateaux de pêche qui sont dans les sablons aujourd'hui, et donc il y a une cohabitation, si je puis dire, dans les sablons, qui est un peu complexe, et donc on a besoin d'avoir des idées claires sur le positionnement de la région vis-à-vis de cette question-là, puisque évidemment ce n'est pas à la ville de Saint-Malo d'assurer les mouillages de la pêche, mais c'est à la région de s'en occuper avec son exploitant. Normalement, la pêche est située dans d'autres, en dehors de l'anse des Sablons, qui est normalement une anse réservée à la plaisance. Il se trouve que depuis maintenant fort longtemps, 10 ans, 15 ans, je sais pas, 20 ans, on a accepté de recevoir les pêcheurs. C'est compliqué parce que le pontonnois souffre beaucoup de tout ça, donc on peut pas garder ces dispositions là donc on souhaite éclaircir la position de nos interlocuteurs sur la question du mouillage des j'en parle parce que ça évidemment, vous l'avez bien compris, ça conditionne la réflexion sur le port de plaisance en termes d'augmentation de capacité, d'aménagement, suivant que les pêcheurs restent ou ne restent pas. C'est pas le même type d'aménagement. Donc il y a eu des réflexions qui ont été conduites avec les deux, dans lesquelles les deux hypothèses sont introduites. Mais aujourd'hui, on n'a pas une réponse suffisamment précise de nos interlocuteurs pour pouvoir opter. Voilà, donc c'est une des questions qui est actuellement en discussion, hein, donc d'autant plus que l'appel d'offres pour la gestion du port de Saint-Malo, non pas le port de plaisance, mais le port de commerce, et vous le savez, dans les tuyaux, puisque la concession se termine bientôt, le cahier des charges est en train d'être discuté, donc la question de la pêche est évidemment partie prenante de la gestion du port de Saint-Malo. Voilà, pour être tout à fait clair avec vous, c'est la question sur laquelle nous travaillons actuellement avec les professionnels que nous avons rencontrés il y a quelques jours avec François Loignonnet et avec la région, puisque la région, évidemment, est pilote en matière de définition du cahier des charges qui va servir ensuite à faire l'appel d'offres sur la gestion du port de Saint-Malo en général. Je c'est pas le port de plaisance des Sablons. Mais donc vous avez compris les interférences entre les deux.
Alors, ce que je comprends pas par contre, dans l'avant-port, il y a eu des travaux qui ont été faits. Moi, je pensais que c'était pour les pêcheurs, donc qu'en est-il, quoi ?
Oui, bon, mais ça, on va pas en débattre ici. C'est pas nous qui sommes compétents pour le faire. Je crois qu'il y a une discussion sur l'utilisation de ces bouées, par qui. Enfin, les choses n'ont peut-être pas été suffisamment précisées au moment où ça a été décidé, mais ça, c'est pas un sujet dont on peut débattre ici, on n'est pas compétent pour ça, c'est pas dans le domaine de compétence ni de la ville, ni de cette assemblée. Mais effectivement, alors, c'est tout le débat qui existe entre la profession et l'exploitant du port et le propriétaire du port. C'est comment répartir justement les flottes de pêche entre ces bouées et le port des Sablons. Nous souhaitons que les choses soient éclaircies une bonne fois pour toutes, parce que c'est compliqué la cohabitation entre les deux types d'activités dans tous les ports. Alors, on n'est pas en train de fermer toutes les portes, on est en train de simplement de dire il faut que les choses soient claires et il faut que chacun assume ses responsabilités sur le plan financier. Voilà ce que je voulais vous dire pour ça. C'est un peu le point de blocage, n'est-ce pas, monsieur Loignonnet ? Ouais. Et monsieur Le Pennec, puisqu'on est tous les trois sur ce dossier. Je voudrais, avant de sortir, peut-être revenir sur quelques chiffres pour nous les ayons bien en tête, parce que Jean-Michel Le Pennec les a présentés, mais dans le cadre d'une présentation évidemment assez longue et très complète. Quelques chiffres, hein, sur qu'on parle évidemment des rues de Saint-Malo, des aménagements, chacun s'exprime, trouve qu'ils sont de qualité ou que ça peut poser problème. Enfin, il y a un débat, toujours un débat en démocratie, hein, bien évidemment. Ce qu'il faut, c'est que les choses se finalisent ici. Alors, je vais simplement rappeler que nous avons investi 8,2 millions d'euros sur l'aménagement de l'espace public Alors l'espace public, je me tourne, Madame Le Tallec qui est toujours très attentive à l'espace public, ça porte évidemment sur des aménagements urbains comme les opérations, le boulevard des Talards et d'autres aménagements, Bonne Rencontre sur Saint-Idoc, la Haise, la Bastille, Rocabé, enfin bon. Dans un certain nombre d'endroits. On a procédé aussi à des acquisitions foncières pour l'espace, pour l'aménagement de l'espace public. On a dépensé une partie de cette somme pour des voiries comme boulevard Chateaubriand notamment, je pourrais en citer d'autres. On a aussi consacré 1,5 million d'euros sur l'amélioration de l'éclairage public, et là c'est très directement lié à la consommation d'énergie et à l'impact environnemental. Et on a dépensé aussi 600 000 euros sur les espaces verts pour améliorer la qualité des espaces verts malouins. Je le dis parce que c'est quand même un gros effort, hein. C'est 8,2 millions d'euros, vous voyez, par rapport à notre budget. Ça représente un pourcentage important. Et c'est évidemment dans ce cadre-là de l'aménagement public, de la voie publique, on a aussi travaillé sur les déplacements doux, le plan vélo, sur tous les aménagements. Quand je parle des Talards, j'inclus évidemment les aménagements de trottoirs, les pistes cyclables, les plantations qu'on a pu faire. C'est la même chose sur le prolongement de la rue Anita Conti, qui vient maintenant jusqu'au rond-point des Talards, où là aussi on trouve 2 millions d'euros. Sur culture et patrimoine, alors on a dépensé, alors cinéma sur couvre, travaux de la cathédrale, bibliothèque, médiathèque, entretien du patrimoine culturel, rempart, on a fait des efforts. Et j'ajoute à ça la mairie de Saint-Servant, sur laquelle on a quand même dépensé 700 000 euros pour refaire les toitures qui fuyaient depuis un certain nombre d'années. Ça fait 2,8 millions d'euros sur culture et patrimoine. J'intègre là. Sport et jeunesse, 1,6 million d'euros sur le stade de Marville en particulier, mais aussi sur les salles de sport. Et on va bientôt inaugurer la nouvelle salle de boxe à la Découverte. Je voudrais ajouter aussi, on a dépensé, en sont des sommes plus modestes, mais c'est quand même important, 300 000 euros sur la modernisation des outils, sur les logiciels de gestion, sur la modernisation de l'outil de gestion lui-même. Et je voudrais finir quand même par l'enseignement, parce que ça ne peut pas nous laisser évidemment indifférents, n'est-ce pas, Madame Hervé? C'est qu'on a investi donc dans les écoles 600 000 euros en matériel informatique et en amélioration des bâtiments, de la phonique, de la thermique, etc. Donc je voulais rappeler ces chiffres-là tout de même, parce que ça me paraît important de le dire. On voit à longueur de jour des travaux dans les rues. On parle plus, évidemment, des trains qui arrivent en retard que des trains qui arrivent à l'heure. Des gens qui rouspètent un peu parce que ça gêne au moment où ça se fait. Et puis qui ensuite sont quand même généralement contents, ce qui est quand même la satisfaction finale. Elle part sur le boulevard des Talards, par exemple, des commerçants qui ont effectivement, à un moment donné, pu avoir des difficultés, on peut le comprendre, mais qui assez rapidement derrière disent qu'ils se récupèrent parce que bon, c'est plus attractif et la clientèle revient et en plus grand nombre. C'est ça l'objectif qui est évidemment poursuivi. Voilà, donc je vais vous laisser en bonne compagnie, si je puis dire.
Oui, ça m'étonnerait. Oui. Voilà, messieurs, dames, mes collègues, donc qui s'abstient sur ce compte administratif? Qui vote contre? Oui, dans l'autre sens, début. Qui vote contre? Je vous remercie.
vous avez raison. C'est la 3 d'abord, affectation des résultats.
Voilà, sur, la... Pardon. Voilà. Sur l'affectation des résultats. Pardon.
Pardon.
Ben oui. Oui, oui. Non, non, mais il y avait beaucoup de bruit à ce moment-là.
Ouais. Oui, oui.
Si, si. Si, si.
Ouais, c'est plus fort encore. Il faut dire qu'il y a une certaine ambiance. Voilà. On mettra ça au titre des, voilà, des trompettes. On ne peut pas dire qu'on l'a voté sans tambour ni trompette. Par contre. Allez, à vous, monsieur.
Donc, concernant l'affectation des résultats de l'exercice 2016, je n'y reviens pas, ils vous ont été présentés dans le détail. Donc, il convient d'affecter le résultat du budget principal, le budget des ZAC, le budget des RZI, le budget de l'assainissement et le budget du port, hein, sachant que globalement, tout budget confondu, l'excédent ressort à 3 682 000. Vous avez un beau tableau qui reprend l'intégralité en termes d'investissement et en termes de fonctionnement. Hein, donc, exception de fonctionnement, un excédent de 9 600 000 et en section d'investissement, un moins 6 millions d'euros. Hein, vous en avez le détail. Par budget, donc voilà, c'est une affectation qui est globale et qui est déjà... Qui a déjà, on entérine ce qu'on a voté en février.
Oui. Question, intervention des uns des autres. Non. Pas d'opposition ni d'abstention. Merci.
Si, il y a une question.
Ah si si, pardon, vous êtes toujours trois abstentions. Oui, vous n'acceptez pas d'affecter les résultats que vous n'avez pas votés par ailleurs. Il y a une certaine cohérence là, c'est vrai. Bon. Après, il y a différentes cohérences, on l'a entendu. Hein. Quatrième délibération porte sur le compte-rendu de gestion de la dette. Voilà.
Donc la présentation de la gestion de la dette et de son évolution vous a été faite tout à l'heure dans le cadre du compte administratif. Hein, simplement 3-4 points à rappeler. Dans l'exercice 2016, nous avons... fait deux emprunts hein, à hauteur de 7 millions d'euros, deux emprunts de 3,5 millions d'euros hein, qui ont été faits à un taux Euribor 3 mois plus 0,45, dont des taux relativement intéressants, hein, des emprunts qui ont été faits sur 15 ans. Et toujours, vous avez dans ce résumé un historique de l'encours de la dette par budget qui est assez intéressant puisqu'on voit que tout budget confondu, l'endettement de la ville est passé de 91 millions en 2012 à 85 millions en 2016, hein, avec, comme je l'ai signalé, donc un recul entre 2014 et 2016, recul de pratiquement 5 200 000 euros de la dette du budget général. Voilà, et donc je reconfirme les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Là, en taux fixe, on a 52% dans la dette, 44% en taux variable. Et pour compléter cette information, puisqu'il convient de la donner également en termes toujours dans ce rapport, c'est la dette qui est garantie, puisque la ville a accordé sa garantie à 17 nouvelles opérations pour 27 millions d'euros, hein, garantie qui est accordée essentiellement à Émeraude Habitation, hein, puisque ça représente 12 garanties sur les 17 accordées, à La Rance et à Aiguillon Construction.
C'est garanti, d'ailleurs, ça montre l'effort que fait aussi la ville en matière de construction de logements sociaux. Hein. Au passage, c'est Émeraude Habitation qui investit et c'est la ville qui garantit. Donc c'est au titre de la garantie que j'évoquais cet effort de la ville, bien sûr. Qui veut intervenir? Non. Personne ne s'oppose, il s'abstient? Non. Non. Pardon? Ah oui, c'est peut-être ton point. Non, 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 je crois pas. Je crois pas. Alors, merci, unanimité. La 5, on approuve les rapports de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Or ça, la CLECT, vous savez, c'est ce mécanisme extrêmement compliqué qui permet de transférer des compétences à l'aglo, mais en contrepartie... Ben, on doit aussi en transférer la capacité financière, finalement. À vous.
Tout à fait. Donc, dans le cadre de la CLECT, hein, bon, je ne vais pas les reprendre en détail, hein, puisque à chaque fois qu'il y a un transfert, on a l'occasion de l'évoquer. Hein, il s'agit de voir simplement les transferts de compétences qui ont eu lieu en 2016 et qui vont avoir un impact sur l'attribution de compensation de la ville. Hein, je rappelle que donc, quand il y a ce type de transfert, effectivement, il y a une baisse de l'allocation de compensation. Allocation de compensation qui était jusqu'à présent de 13 millions d'euros et qui tombera en 2017 à 9 500 000. Explication, on a transféré le SDIS, rappelez-vous, pour 3 400 000, l'aire de l'accueil des gens du voyage, 85 000 euros, la gestion des milieux aquatiques pour 33 000 euros, la prévention des inondations pour 162 000 euros, et le dernier transfert que l'on a fait qui concernait le tourisme, c'est à hauteur de 450 000 euros. Hein, donc ça, c'est ce qui s'est passé dans l'année 2016, qui aura des conséquences, bien sûr, sur l'allocation d'attribution, l'allocation de compensation hein, à recevoir par la ville, qui s'élèvera désormais à 9 528 000 et qui, bien sûr, aura des conséquences dans la formation budgétaire, puisque le poids de cette allocation de compensation diminuera dans le temps.
Voilà. Donc, le mécanisme, vous commencez à le comprendre maintenant, je pense. Hein. Alors, il y a un petit effet secondaire, c'est que la dynamique de cette charge-là, elle est prise en charge par celui qui récupère la compétence. Alors ça peut jouer dans les deux sens. Si c'est une dépense, ben, c'est lui qui va supporter les dépenses supplémentaires quand ça va augmenter au fur et à mesure des années, ou qui va au contraire gagner si les dépenses diminuent. Par contre, quand on sera amené à parler de transfert de la taxe de séjour dans quelques temps, comme c'est une recette et pas une dépense, ben ça jouera en sens inverse. Hein. La dynamique positive de la recette sera capitalisée par l'agglo. Mais ça, c'est le mécanisme que le législateur a mis en place pour les transferts de compétences entre les communes et les intercommunalités. Voilà. Des questions là-dessus ? Non, c'est un mécanisme que maintenant on commence à intégrer, puis on en parle aussi pour ceux qui sont à l'agglomération assez court, assez souvent. Pas d'opposition ni d'abstention, merci. On a une DM à voter, la DM numéro 1, Monsieur Le Pennec. DM comme décision modificative. Hein.
Voilà, cette décision modificative, là aussi...
Ajuster les finances.
On va ajuster, ça va perdre... Voilà, on a décidé de vous montrer aussi un diaporama, parce que c'est plus agréable à suivre, et ça permet de figer hein, les grandes sommes. Donc tout d'abord, cette décision modificative, avant de voir les dépenses, l'intérêt c'est de voir si on avait des recettes nouvelles, et là aussi, de par le principe de prudence, lorsqu'on vote notre budget primitif, ça permet, je dirais, d'avoir des recettes nouvelles dans le cadre de cette décision modificative. Donc ces recettes, elles n'ont pas été votées, bien sûr, au budget primitif. Et on peut se réjouir des 328 000 euros de recettes fiscales, hein, dont 200 000 euros de droits de mutation. Hein, ça démontre le dynamisme au niveau de l'immobilier, puisque qui dit droits de mutation, c'est essentiellement sur des transferts immobiliers. Et les 152 000 euros de taxes de séjour, hein, qui viennent en complément de ce que je disais tout à l'heure, qui portent pratiquement 15% l'augmentation de la taxe de séjour. Là aussi, c'est un signe du dynamisme de notre tourisme. En ce qui concerne les dotations et participations, là je mettrai plus de bémol. Moi je suis très content qu'on reçoive 700 000 euros de plus, hein, mais je me permets de signaler et alerter notre député pour qu'il intervienne à ce niveau-là, c'est qu'on est rendu au mois de juin 2017 et on n'a toujours pas les notifications de l'année 2017. Dans 15 jours, on attaque avec le service des finances le cadrage du budget 2018. On attaque 2018. On n'aura toujours pas nos notifications 2017. Alors quand c'est des bonnes nouvelles, c'est bien, mais pour être à la baisse, voilà, c'est très désagréable d'apprendre qu'on est, on est content. On a toujours la dotation de solidarité urbaine, mais on joue à pile ou face et gérer une municipalité, c'est pas jouer au casino. Et on aimerait bien que les informations, on les ait un peu plus tôt, parce que si on fait de la bonne gestion, c'est faire des bonnes prévisions. Mais quand on doit, voilà, agir en disant, ben, on sait pas si on aura, peut-être que, voilà. Donc, c'est quand même deux points positifs. Tout d'abord, au niveau des compensations fiscales. Et là, ça ne contredit en rien ce que j'ai dit tout à l'heure sur en quoi joue l'État. Les 344 000 euros, c'est la conséquence de la baisse de la taxe d'habitation suite au vote qui avait eu lieu en 2002 où l'État avait fait du rétropédalage en disant non, on vous annule et on compensera au niveau des mairies. Donc les 344 000 euros, c'est lié à cela. En revanche, les 253 000 euros pour la dotation globale de fonctionnement, là par contre, on peut vraiment s'en réjouir puisque c'est l'effet de l'évolution de la population de la ville qui fait qu'on aura une dotation globale de fonctionnement supérieure à ce qu'elle était précédemment.
J'attire votre attention sur cette information. Hein, c'est là. On avait évidemment mis ça au cœur de notre projet municipal. C'est le premier signe tangible, puisqu'il se traduit par des euros, par du financement, d'un retournement donc de la démographie malouine, dans le bon sens, évidemment, dans le sens positif. Mais tout ça, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et la nécessité de construire, d'avoir un niveau d'offre de logements nouveaux qui dépasse les 500 par an. On sait qu'au-dessous de 500, la population continue de stagner, à 400 pendant plusieurs années, elle a continué de baisser. Donc c'est très important et ça ramène quelque part aussi aux vociférations du début de séance. Quand effectivement nous travaillons les uns les autres de façon, je le reconnais, de façon très collective et partagée sur la façon de trouver des capacités d'offre de logement dans une ville contrainte comme Saint-Malo, où finalement on a le dos à la mer et puis un côté sur la Rance, donc le territoire il est sur 90 degrés, il n'est même pas sur 180 et il n'est pas du tout sur 360. Et qu'il ne faut pas que la tâche urbaine augmente parce que y a une agriculture autour qui est une agriculture à valeur ajoutée. On met tout ça dans l'ordinateur, on secoue et on sort un certain nombre de données qui sont incontournables. Il faut travailler sur les formes urbaines, il faut savoir prendre des décisions bien pensées, bien pesées. On fera jamais n'importe quoi et d'ailleurs on le fait là aussi, je le répète, de façon partagée dans cette enceinte et dans les commissions qui travaillent en dehors de cette enceinte. Est-ce qu'il y a des...
Alors pareil,
tu veux continuer? Je sais pas, je t'ai un peu trop coupé la parole.
Allez, vous me coupez la parole quand vous voulez, monsieur le maire. Simplement au niveau des produits, toujours 85 000 euros de produits de domaine, c'est 58 000 euros d'achat pour le compte du CCAS, hein, donc ça c'est simplement un jeu d'écriture, et là aussi une somme dont on peut se réjouir, c'est les 195 000 euros de produits exceptionnels, donc c'est à 186 000 euros suite à la fin de la délégation avec l'ancienne délégation avec le casino. Je dirais c'était de l'argent qui était mis de côté, qu'on a réussi à récupérer en fin de délégation, et le virement d'ailleurs a été fait cette semaine. Donc 1 350 000 euros de recettes nouvelles sur lesquelles on va dépenser 730 000 en termes de fonctionnement, hein, et on affectera 620 000 euros en termes d'investissement. Hein, donc l'intérêt c'est toujours là aussi de pouvoir dégager des excédents, même dans le cadre du DM, de manière à renforcer l'investissement. Dans le cadre des dépenses nouvelles de fonctionnement, il y a 130 000 euros pour les fluides. Une explication, c'est que l'année dernière, nous avons arrêté, souvenez-vous, les comptes relativement tôt, compte tenu des changements informatiques, et à partir du 15 décembre, on avait stoppé tous les mandatements de manière à faire tous les transferts. Ce qui veut dire que, notamment au niveau des fluides, au niveau EDF, on va se prendre 13 mois dans le budget 2016 contre 12 l'année précédente. Ceci explique, ou 11, pardon, en 11 mois en 2016 et 13 mois en 2015, ce qui explique ce rattrapage pour les fluides. 2016, pardon. Il y a 70 000 euros donc pour le 50e anniversaire de la fusion des trois villes. Les 58 090 pour le CCS, c'est la contrepartie de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est une entrée et une sortie. 50 000 euros de traitement contre les chenilles processionnaires. Hein, monsieur Bénard pourra nous expliquer tout à l'heure. 50 000 euros, j'espère qu'on va les éradiquer définitivement. 40 000 euros de frais d'assurance. Alors là, ce sont des dommages ouvrages sur des travaux relativement conséquents que l'on réalise au niveau de la ville, notamment au niveau de la salle surcouf. Hein, on préfère prendre des garanties complètes en cas de dommages ouvrages, puisqu'on est sur des secteurs relativement sensibles. 34 000 euros pour des frais d'études, dont une étude pour la jeunesse à hauteur de 14 000 euros qui a été votée dans cette enceinte. Et 30 000 euros, alors c'est pas pour le parking relais Paul Féval, hein, c'est le service de navette, c'est améliorer et augmenter le service de navette entre Paul Féval et l'intramuros. Les 38 000 euros de subvention ainsi que voilà ont été présentés en partie tout à l'heure par Madame Guillemère, et les 55 000 de charges exceptionnelles, là aussi ce sont des annulations de titres de taxes de séjour qui ont été faits fin 2016, là aussi compte tenu des contraintes en termes de temps, on a été amené à les annuler, mais ils ont été remises sur l'année 2017. Voilà, donc ça explique les dépenses et l'amortissement qui est la conséquence des investissements nouveaux réalisés. Voilà, donc sur ces dépenses, 729 000, ça permet de transférer 600 000 euros à la section d'investissement et de lancer de nouveaux programmes d'investissement, puisque les nouvelles dépenses d'investissement vont se solder par un montant de 2 500 000 euros. Hein, sachant qu'il y a 3 189 000 de dépenses nouvelles et 680 000 euros. Alors, oui, annulation de crédit, j'aime pas tellement ça. Enfin, elles sont annulées budgétairement, mais c'est avant tout des choses qui sont reportées sur certains secteurs, puisque ça concerne le secteur Marion Dufresne, ça concerne le secteur Guillaume Onfroy. Ce ne sont en aucun cas des investissements qui sont abandonnés, mais qui sont reportés sur 2018. En revanche, les dépenses nouvelles, là, concernent essentiellement des opérations d'urbanisme à hauteur de 2 241 000 euros, avec 432 000 euros pour le secteur Aristide Briand. Hein, je rappelle que c'est un PUP, hein, c'est un projet urbain partenarial, hein, ce qui veut dire aussi que c'est un petit peu les limites de la comptabilité publique, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'investissements qu'on est amené à réaliser, qui donneront lieu à recettes dans les années à venir, sont considérés comme des dépenses budgétaires. Et je pense à des dépenses, effectivement, comme ces 432 000 euros qui donneront lieu à recettes, ou d'autres aménagements qui pourront donner lieu à remboursement. Et donc, on ne fait pas de distinguo entre des investissements propres et, je dirais, des projets urbains partenariaux qui, comme leur nom l'indique, donneront lieu à recettes dans le futur. En revanche, qui donnera pas lieu à recettes dans le futur, mais qui est une marque et un investissement important, monsieur le maire y reviendra tout à l'heure, c'est les 500 000 euros de subvention pour la construction d'une résidence étudiante. Ce sont les 320 000 euros pour une préemption secteur Marion Dufresne qui illustre mon propos tout à l'heure, puisque nous aurons une recette équivalente en face de cela. 265 000 euros, c'est le giratoire des quatre pavillons. Et 210 000 euros, l'aménagement d'un parking de carte du tourisme rue du Calvaire. On a eu là aussi l'occasion d'en débattre lors du dernier conseil municipal. Enfin, pour conclure, en termes d'investissement, il y aura 150 000 euros de travaux dans des bâtiments, dont 115 000 euros de crédit complémentaire pour l'ex-cinéma Surcouf. Hein, c'est 150 000 euros. Alors, concerne d'abord un petit peu, à hauteur de 30 000 euros, un surcoût qui est lié aux appels d'offres. Hein, c'est là qu'on voit qu'il y a quelques tensions sur le bâtiment. On avait un petit peu une sous-estimation au niveau des devis. Et par ailleurs, il y a eu des commandes complémentaires où ces travaux incluent également tout ce qui dépasse, qui va un peu plus loin de la construction, c'est tout ce qui concerne tout ce qui est droit d'accès, tout ce qui est mise en sécurité, tout ce qui est, alors je parle pas accessibilité pure, mais je dis gestion dans le cadre, vous le savez, des associations qui seront accueillies dedans, donc il y a toute une signalétique, toute une gestion informatique qu'il convenait d'intégrer dans ces travaux, ce qui explique ce coût complémentaire. Et enfin, 127 000 euros de logiciels et prestations informatiques, ça concerne la DRH, notamment la gestion du RIFSEP, ça concerne la gestion des congés, et ensuite, là aussi, les finances qui se sont dotées d'outils relativement performants qui s'appellent Business Object et de tableaux de bord, ça va permettre de mettre à chaque direction des tableaux de bord, un suivi, une information plus performante et qui permettra aussi d'avoir un budget toujours le plus approprié des informations données au service en connaissance de cause. Voilà pour ce budget d'investissement, donc qui va se solder par un emprunt d'équilibre complémentaire de 1 254 000. Je rappelle que c'est un emprunt d'équilibre pour établir notre budget, mais qu'on ne fera pas forcément cet emprunt, puisque vous avez le détail qui vous a été donné dans le cadre de l'information globale au niveau du budgétaire, BP plus DM plus reste à réaliser. Et vous noterez qu'on a déjà dans ce cadre-là plus de 4 millions d'emprunts qui sont mobilisables, mais que nous n'avons pas budgété encore. Ça figure dans le poste reste à réaliser. Voilà, monsieur le maire. Alors, dans la foulée, comme me demande monsieur le maire, je vous présente les budgets annexes également. Donc, dans les budgets annexes, au niveau des au niveau du budget annexe assainissement, c'est le, je dirais, il y a peu de variations, puisqu'on a 64 000 euros de dépenses de fonctionnement en plus, et la section d'investissement, elle va être diminuée de 57 000 euros, mais ce sont des ajustements à la marge. Au niveau des AC, rien à dire. Au niveau des zones, une inscription de 7 000 euros en recettes, là aussi c'est pour mémoire, on ne va pas s'étendre. La variation la plus conséquente en termes de budget annexe, c'est le budget du port, qui fait suite notamment à l'incendie qu'il y a eu lieu. Alors là aussi, on m'a posé la question en commission. Ça va générer des dépenses de fonctionnement supplémentaires à hauteur de 58 000 euros et des investissements complémentaires pour refaire les ponts à hauteur de 354 000 euros. La contrepartie, puisque ce sera pris en charge par les assurances, mais compte tenu des procédures, par prudence, on n'a pas positionné l'intégralité du produit à recevoir, puisque dans le meilleur des cas, on en recevra sans doute une partie en 2017 et le reste en 2018. Mais le différentiel entre les dépenses et les recettes ne constitue en aucun cas une charge pour la ville, mais une prudence par rapport à la durée et au délai de remboursement des assurances. Enfin, pour les campings, une dépense complémentaire de 22 000 euros pour une étude en vue d'une délégation de service public. C'est le début d'une démarche pour voir l'intérêt d'une telle délégation. Voilà, monsieur le maire.
Merci. Pour le budget annexe du port, il y a une petite rallonge pour l'incendie, là.
Oui.
Mais c'est ça. Donc elle va être sous, elle est sous assurance.
Elle est sous assurance, savoir.
C'est ce que je voulais ajouter. C'est tout. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Lefebvre.
Oui, monsieur le maire, un décret du 10 mai oblige désormais les collectivités à réduire la facture de performance énergétique des bâtiments de 25% d'ici 2020.
Ouais.
La presse fait état des difficultés des villes à pouvoir fournir un plan d'action au 1er juillet. Est-ce que la ville de Saint-Malo est prête? Merci. Ou faut-il rajouter de l'argent pour faire ces études?
Ouais. On va avoir des délibérations. Jacques, la délibération aussi sur qui va dans le sens de CEREMA. Oui, mais l'éclairage public, c'est en plein dedans. Et c'est... Oui, mais l'éclairage public, c'est un gros chapitre de la dépense énergétique. Mais c'est entre autres l'éclairage public. Mais la réponse est oui, quand même, on travaille sur l'amélioration. Alors après, les 25%, c'est par rapport à quoi? D'ailleurs, il faudra qu'on voit exactement quelle est la base de départ. Il y a déjà eu des choses de fait. Alors si c'est par rapport à aujourd'hui, ça peut être compliqué. Si c'est par rapport à un référentiel qui se situe un peu en amont... Bon, mais ça, je ne sais pas répondre, mais on va regarder ça de très près. Ça fait partie de nos préoccupations. Il y a un groupe de travail de constitués qui travaille là-dessus. Vous n'en êtes pas parti? Non? Bon. Ben, je vous invite à peut-être vous rapprocher de... voilà. Pas de questions autrement? Oui, madame Le Tallec.
Je me permets, si vous me le permettez, monsieur le maire, une petite digression sur le port.
Vous le faites avec calme, mais c'est tout.
Oui.
Bien,
sur le port, les conséquences de l'incendie et les travaux, il avait été apposé des panneaux d'interdiction de baignade pendant un moment qui ont été retirés. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des risques de pollution ou du fait qu'il n'y en ait pas suite à cet incendie?
Oui, je ne sais pas qui va pouvoir répondre de façon précise à ça. François, tu n'as pas suivi ça directement? Des questions? Pardon? Plutôt Claire, alors. Voilà. Oui, parce que Claire aussi, elle a en charge la qualité des eaux de baignade. Donc, c'est à ce titre-là qu'elle va prendre la parole. Ouais. Oui, avec... voilà.
Donc, en fait, la baignade a été interdite, effectivement, sur la plage des Bas-Sablons, mais c'est suite aux pompiers, en fait, puisqu'ils utilisent... Enfin, ils ont utilisé pour éteindre l'incendie des produits effectivement avec des solvants, et donc ça nous a obligés à fermer la baignade au Bas-Sablon, mais depuis l'ARS est revenue, a fait des contrôles. La plage des Bas-Sablons, on n'a pas de problème majeur hein, sur la qualité de l'eau au Bas-Sablon, il faut le savoir, parce que c'est vrai que dans l'esprit commun, on a tendance à dire que c'est au Bas-Sablon. Alors ça peut arriver quand il y a des incivilités au port des Bas-Sablons, mais le port des Bas-Sablons a fait d'énormes travaux hein, pour être effectivement un site propre, et du coup toutes les eaux usées sont ramassées, donc c'est vraiment effectivement de façon très sporadique où on peut avoir des incivilités et du coup avoir des eaux de baignade qui peuvent de temps en temps être souillées, mais pas plus que sur d'autres plages, et elles sont contrôlées très très régulièrement. Et là c'était vraiment dû aux produits des pompiers quand ils ont éteint l'incendie. Voilà.
Oui, ça me revient ça maintenant, effectivement. Oui, c'est une plage propre et ça fait des années, hein, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que la ville de Saint-Malo a beaucoup investi dans le port des Sablons. C'est un port tout à fait exceptionnel. Hein, il y a des toilettes sur les pontons, ça n'existe pas beaucoup ça. Hein. Il y a des dispositifs de ramassage des eaux grises, des eaux noires, enfin bon, tout un dispositif qui est efficace. Quoi. Et d'ailleurs, dans les réflexions... Pardon. Et oui, et François Le Guenet a raison d'ajouter, et on a investi dans le carénage il y a 3 ans, 4 ans, là aussi sur un équipement qui est exceptionnel, hein, il n'y a pas beaucoup d'équivalent de ce genre d'équipement, quoi. Bon. Oui. François Le Guenet.
Les incivilités, c'est surtout les camping-cars qu'on surveille de près.
Voilà. Ceci est dit. Les bateaux, ça va, les pratiques sont assainies. Voilà. Dans le projet dont on parlait tout à l'heure sur l'Anse des Sablons, on réfléchit aussi à la requalification de la plage des Sablons en même temps. Ça fait partie des réflexions de notre AMO, n'est-ce pas, monsieur Le Guenet? Ah. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'opposition. Personne ne s'abstient non plus. Si, abstention. Alors, 3 abstentions. Pardon, excusez-moi. Vous votez contre, pardon. Contre, 3 contre. Pas d'abstention? Non. Merci. Madame Guidemer, c'est le moment. Voilà. Les sous, c'est terminé, donc on peut. alors, on va passer dans la séquence urbanisme maintenant. On va parler des modifications de PLU. Il y en a, je crois que c'est 3. On va commencer par la 28e. C'est la délibération numéro 8 qui porte sur le secteur de Rocabay, Théodore Botrel, enfin, tout le secteur qui va depuis l'école de police pour se poursuivre vers... voilà. Comment ? Secteur concerné, boulevard Théodore Botrel au nord, boulevard de la Tour de l'Aubergne au sud. Ah, la 7, pardon. Ah, j'ai laissé partir trop vite Claire Guidemer, mais excusez-moi, vous faites bien de me rappeler. Les provisions pour risques et charges. Monsieur Le Pennec.
Oui, pardon, je vais. Voilà, là, donc, c'est une délibération qui va être rapide, qui concerne les provisions pour risques et charges. En fait, c'est une reprise partielle pour provisions, je l'ai signalé tout à l'heure, donc quand on a présenté le budget. C'est une provision qui, à hauteur de 67 800 euros, ne se justifie plus. On l'avait votée, il faut la reprendre, c'est ce qu'on demande comme autorisation.
Voilà, donc c'est repris, c'est-à-dire c'est bon, un contentieux qui est en faveur de la ville. Donc. Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Donc on peut arriver à la 28e modification du PLU. On est sur Théodore Botrel et boulevard de la Tour d'Auvergne, avenue de Moka. Monsieur Charpie, à vous.
Merci monsieur le maire. Donc cette délibération ainsi que les deux autres sont l'illustration parfaite des réponses que nous apportons à la demande de 500 logements minimum par an. On t'a parlé tout à l'heure, monsieur le maire. La première concerne donc le secteur de Rocabay. Cette modification avait plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faire évoluer le périmètre du secteur de plan masse afin d'encourager et de faciliter les opérations de renouvellement urbain dans ce quartier de Rocabay. Le deuxième était de mettre en valeur les composantes de la trame verte urbaine en supprimant un îlot de constructibilité qui était cité dans le précédent PLU au sud-est de ce secteur afin de permettre la continuité verte de ce secteur, et ainsi que le support de mobilité douce. Et enfin, le troisième objectif, c'était de tenir compte des contraintes du PPRSM qui est en cours d'approbation en augmentant légèrement les possibilités de construction de certains sous-secteurs. Donc la procédure de modification a été lancée en commission d'urbanisme le 16 janvier 2017. L'enquête publique a été réalisée du 22 mars au 24 avril 2017. Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions en date du 22 mai 2017. Il a émis un avis favorable au projet de modification, considérant que le projet est en accord avec les objectifs du PLU en vigueur, ainsi qu'avec les orientations du projet urbain stratégique de la ville de Saint-Malo, Saint-Malo 2030, qui favorise le renouvellement urbain et qui prévoit de développer des quartiers centraux, et notamment la polarité émergente Rocabé-Gare.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez regardé le dossier, évidemment, en détail, puis tout ça, c'est des choses qui sont discutées dans les commissions aussi. Mais il peut y avoir toujours des questions. Non ? Là, donc, M. Charpie l'a dit, on va passer un certain nombre de modifications comme ça pour pouvoir faire face aux besoins de logements sur Saint-Malo sur un rythme élevé. Pas d'opposition, pas d'abstention non plus. Merci. Alors, la 30e, on l'a mis avant la 29e.
Oui, j'ai vu ça, mais
il y a un ordre à l'ensemble.
Il y a sûrement une raison majeure, mais...
Ouais. Non, je ne crois pas qu'il y ait de raison majeure, à mon avis.
Oui, mais ça m'a effectivement surpris de voir l'ordre. Ouais. Ce n'est pas bien grave.
Il m'a échappé, sinon.
Donc là, on va parler des talards, le secteur des talards, et plus précisément, le secteur entre l'avenue Franklin Roosevelt à l'ouest, la rue du Four à Tabac au nord et la rue Anita Conti à l'est. Donc c'est un secteur qui bénéficie d'un positionnement stratégique en cœur de ville, à proximité du quartier de la gare. La première phase de cet aménagement, donc je vous rappelle que le plan masse d'origine il date de 1993, donc la première phase d'aménagement a concerné la construction du bâtiment démo d'habitation. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un bâtiment qui est sur le futur, enfin le giratoire qui a été
tout
refait.
Tout le monde le voit sur.
Voilà, qui présente une façade incurvée parce qu'il était déjà fait dans l'optique d'accueillir un giratoire en réflexion à l'époque. Nous avons mûri ce projet d'aménagement global en prenant en compte les nouvelles orientations urbaines définies à l'intérieur du projet Saint-Malo 2030. Donc les modifications qui sont l'objet de cette délibération, c'est d'étendre légèrement le périmètre du secteur plan masse et de modifier les règles de constructibilité sur certains sous-secteurs afin de favoriser les opérations de renouvellement urbain. Et c'est également de mettre en cohérence le secteur de plan masse avec le nouvel aménagement de l'espace public au niveau du boulevard des Talards. La procédure a été lancée en commission d'urbanisme le 13 mars 2017, enquête publique du 25 avril au 26 mai. Aucune remarque lors de l'enquête publique. Et donc, à la suite de cela, un avis favorable du commissaire enquêteur sur l'ensemble du projet de modification.
Merci, M. Charpie. Question là aussi ? Interrogation ? Non. Personne ne s'oppose ni s'abstient. Merci, même cause, mêmes effets. Et on va passer au 29e maintenant.
Un petit retour en arrière dans la chronologie.
Voilà. Marion Dufresne.
Donc là, on parle de Marion Dufresne. ce secteur de plan masse avait été adopté en conseil municipal en octobre 2017. Il a été défini pour permettre l'implantation de logements sur ce secteur d'arrière-port suite à l'époque à la délocalisation de la laiterie Malouine et avait permis la réalisation d'un premier ensemble immobilier que vous connaissez. Et donc la présente modification consiste d'une part à étendre au nord de la rue Yvelin le secteur de plan masse et de fixer des règles de constructibilité adaptées pour poursuivre les opérations de logement menées sur le secteur Marion Dufresne, dans la continuité des projets réalisés sur Port-Marlot, tout en mettant en œuvre, donc un second volet important, le projet de réalisation d'une voie de desserte portuaire le long des rues Hochelaga et Marion Dufresne. Commission d'urbanisme donc, qui a été consultée en mars 2017, enquête publique du 27 avril au 29 mai 2017. Afin d'apporter des éléments de réponse, la ville de Saint-Malo a produit un mémoire daté du 9 juin 2017, dans lequel nous avons en particulier tenu à rassurer les propriétaires des habitations qui sont situées rue Yvelin et rue Alphonse Thébault sur le fait que ce secteur de plan masse correspond bien à un périmètre d'étude et qu'en tout cas, il n'y a aucune obligation de s'engager dans des opérations lourdes les concernant et qu'il y a une mutabilité lointaine qui sera à l'initiative des propriétaires des parcelles et non pas de la ville. Avis favorable donc émis par le commissaire enquêteur le 11 juin 2017, considérant que cette 29e modification du PLU répond toujours là à un objectif de renouvellement urbain et de création d'un axe routier portuaire permettant une fluidité de la circulation routière globale de la commune.
Merci. Là aussi, des questions, non ? Pareil, pas d'opposition, ni d'abstention. Merci. Et là, on passe à la 11, parce que là, il y a une convention foncière et financière relative justement à la précédente.
Voilà, donc on rappelle que la ville de Saint-Malo a déjà la maîtrise foncière de 3 parcelles dans ce secteur, que de son côté, le groupe Bizel a acquis plusieurs fonciers, l'hôtel de l'Hermine, la brasserie Le Bosco, et qu'il négocie plusieurs emprises le long de la rue Marion Dufresne afin d'engager un projet immobilier à l'échelle de l'îlot Marion Dufresne, place de l'Hermine, rue Yvelin. Ce projet permettra dans sa globalité de créer environ 100 logements, avec une part de logements en accession intermédiaire, car nous sommes dans le périmètre des 300 mètres autour du quartier prioritaire de la ville, et qu'il permettrait ainsi à la collectivité d'élargir à 18 mètres la rue Marion Dufresne pour faciliter la desserte des entreprises portuaires. Des emprises portuaires, pardon. Alors, dans ce cadre-là, il est proposé un échange foncier avec Soult entre les emprises qui appartiennent à la collectivité et qui sont cédées au groupe Bizel, et à l'inverse, celles qui sont nécessaires à l'élargissement de la voie, et qui seront donc cédées par le groupe Bizel. Donc le protocole foncier a été rédigé, il prévoit donc cet échange, moyennant une soulte de 300 000 euros à la charge de la société Bizel. Il prévoit également la cession au profit de la société Bizel Promotion des lots numéro, alors je ne vais pas tous les citer, hein, pour un montant de 310 000 euros. Et enfin, il prévoit dans le protocole que 25% au moins du programme immobilier répondent aux critères de la TVA à taux réduit à un montant maximum de 2500 euros hors taxe par mètre carré. Voilà. Voilà, monsieur le maire, le projet de convention avec le groupe Bizel.
Voilà. Question avant de voter l'autorisation d'ST. Pas de questions ? Non. Pas d'opposition, pas d'abstention non plus. Merci. Donc la 12 et la 13, on les a retirées. On passe à la 14, c'est la construction d'une résidence quai du Val.
Donc la SCCV Saint-Malo Développement a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser une résidence de 81 logements d'un local d'activité aux 18, 20 et 24 quai du Val. Dans le cadre de cette opération, il est prévu d'aménager les abords de l'opération en élargissant les trottoirs quai du Val afin de créer des stationnements et d'améliorer la circulation des piétons. Les acquisitions et les travaux nécessaires à l'aménagement des abords de l'opération sont mis à la charge du pétitionnaire. D'une part, il rétrocédera à titre gratuit une emprise de 280 m² correspondant à une bande de 3,20 m de large. D'autre part, il réalisera les travaux d'aménagement du quai du Val sous la forme d'un apport en nature, sous la forme de travaux qui ont été évalués à un montant de 88 628,76 euros hors taxe.
Merci. Mes questions là aussi, non ? Pas d'opposition, pas d'abstention non plus, merci. Le secteur de Saint-Étienne, la convention avec Nexity.
Alors la société Nexity Conseil a déposé un premier permis d'aménager de 17 lots sur le secteur de Saint-Étienne, rue de la Croix-Rousse. Le lotissement n'a pas encore été approuvé par la collectivité et il reste conditionné à la validation d'une convention de projet urbain partenarial avec la société Nexity Conseil. La ville de Saint-Malo souhaite ainsi améliorer le traitement urbain de l'entrée de ville du hameau de Saint-Étienne en réalisant l'enfouissement des réseaux, un nouveau trottoir qui permettra de faciliter les déplacements doux et l'accessibilité du projet. Il a donc été convenu que la société Nexity participe dans le cadre d'un projet urbain à l'aménagement pour un montant global de 209 778,5 euros qui correspond d'une part aux voiries au trottoir pour 97 000 euros environ et l'effacement des réseaux pour 112 000 euros. La société Nexity s'engage à verser à la commune la fraction du coût des équipements publics nécessaires aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions édifiées. Cette fraction est fixée à 40% du coût total des équipements. En conséquence, donc, le montant de la participation totale à la charge Nexity Conseil s'élève à 83 911 euros. En complément, elle prendra à sa charge la réalisation d'un poste de relèvement des eaux ainsi que le réseau afférent sur la longueur nécessaire pour accorder l'installation au réseau public.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions là aussi ? Non ? Pas d'opposition, pas d'abstention non plus.
Merci. Je vous invite à vous transporter à la Croix des Îles, sur le campus de l'IUT. Donc, vous connaissez, enfin, certains d'entre vous très bien, d'autres peut-être d'un peu plus loin, le schéma local d'enseignement supérieur et de la recherche qui a été élaboré par Saint-Malo Agglomération. Et dans ce schéma local, plusieurs volets sont évidemment abordés, les formations, l'accompagnement des étudiants dans le sport, dans les loisirs, dans l'intégration dans la ville. Mais il y a un volet aussi qui doit être traité, c'est celui du logement des étudiants eux-mêmes. Bon, lorsque effectivement on observe l'offre de logements spécifiquement étudiantes, il y a évidemment des logements en ville, hein, mais réservés à nos étudiants sur Saint-Malo, ben, cette offre est somme toute assez faible, même pas proche de zéro, parce qu'il y a quelques logements qui sont proposés sur le campus de la Croix des Îles, mais en nombre insuffisant. Alors, ce qui a été proposé dans le cadre de ce schéma local, c'est la construction de logements étudiants vraiment destinés aux étudiants, c'est-à-dire avec une configuration, un accompagnement, avec une personne qui gère l'espace, comme ça se fait dans les résidences étudiantes. Et vous avez vu donc un chantier qui a démarré très récemment à la Croix des Îles, à la place donc de la ferme qui est située juste au bord du rond-point. Et donc c'est la SA HLM La Rance qui a été sollicitée pour construire 100 logements. Alors c'est pas 100, c'est 99 exactement, compris entre 20 et 23 mètres carrés pour les logements à PMR. Oui, alors 23 mètres carrés pour les PMR et 20 mètres carrés pour ceux qui ne sont pas PMR. Et donc, on commence par une première tranche qui prévoit 66 logements et la seconde fera 33 logements. Alors, la question qui se pose, très clairement, c'est la possibilité d'équilibrer financièrement cette opération. Alors, on a eu des discussions avec la Rance, et alors il faut que vous ayez à l'esprit que la ferme a été acquise par la ville de Saint-Malo en 2009 pour une somme de 825 000 euros. Et donc, on a donc regardé avec la Rance comment l'opération de construction de logements pouvait être assurée avec... un prix du foncier situé à ce niveau-là, c'était 825 000 euros, et on n'a pas réussi à trouver un équilibre à l'opération, et donc la Rance a jeté l'éponge à ce moment-là. Donc on a été amené à se remettre autour de la table pour trouver une solution, et en fait pour réussir à trouver un équilibre à cette opération, au travers des loyers perçus, en tenant compte évidemment des charges que génère une résidence de cette nature. Je vous rappelle que l'objectif, c'est quand même de sortir des loyers de faible niveau, sinon on laisse le marché libre se faire. Et là, l'objectif, c'est d'arriver à un loyer attractif, puisque ça a été fixé très précisément à 266,60 euros par mois. Or ça, c'est hors charge, mais avant APL, hein, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent obtenir une aide au logement, ben, elle vient se déduire de cette somme-là. Donc on est effectivement sur des niveaux de loyer qui sont bas, mais qui correspondent à ce que des étudiants peuvent consacrer à leur logement. Donc, question, c'est comment arriver à monter cette opération-là ? Ben, il s'est avéré tout calcul fait, et compte tenu du fait que c'est une résidence étudiante et qu'elle ne peut pas être utilisée à d'autres fins que celui de loger des étudiants, parce qu'on aurait pu imaginer, par exemple, de la rentabiliser en la louant à la semaine pendant l'été, enfin, toute solution de cette nature. Mais ça, c'est incompatible avec le statut des résidences étudiantes qui doivent rester disponibles pour l'objet pour lequel elles ont été constituées. Donc tout ça, ça a conduit à ce que on soit amené à négocier avec la Rance une subvention significative, puisqu'elle s'élève au total à 1 025 000 euros. 1 025 000 euros divisé par 100, ça fait donc que c'est une subvention de 10 000 euros par chambre, hein, très clairement. Hein. Alors 1 025 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais c'est en même temps ce qu'il faut faire pour arriver à l'objectif que nous sommes fixés. On a donc regardé avec l'agglomération à partager finalement la charge en deux, donc à solliciter l'agglomération pour qu'elle apporte 500 000 euros au titre du plan, justement, du schéma local de l'enseignement supérieur. Et donc, ce sera une délibération qui sera présentée au suffrage de ceux qui sont en communauté d'agglomération, enfin, conseil d'agglomération, à la prochaine, notre prochaine réunion. Et donc, le reste de 525 000 euros étant supporté par la ville de Saint-Malo. Alors, sous la forme d'une remise du terrain, donc 825 000 euros, moins 300 000 euros qui seront donc reversés par la Rance à la ville de Saint-Malo. Donc en fait, la ville de Saint-Malo fait un effort de 525 000 euros, qui est donc de 825 000, moins les 300 000 qu'elle va récupérer, et l'agglomération met de son côté 500 000 euros. Donc là, et on arrive à monter l'opération dans ces conditions. Voilà, je vous ai expliqué les choses, dans leur complétude. Donc j'attire votre attention et votre intérêt sur cette délibération. On continue de faire des efforts très importants pour notre campus universitaire. Nous étions ce matin avec les services et le bureau d'études qui travaille sur le campus universitaire. Le campus universitaire connaît vraiment, commence à connaître un attrait qui, je pense, va se poursuivre, puisque bon, évidemment, l'école, l'ENSM qui doit s'y installer. J'espère, un peu plus tard, l'école d'infirmières qui viendra s'y mettre. Et il y a d'autres projets qui nous permettront, je pense, d'augmenter encore le nombre d'étudiants sur ce campus-là. On a prévu d'ailleurs d'en étendre la surface, au-delà de la hein, au-delà de la, alors comment ça s'appelle, du périphérique, je veux dire.
Rocade.
De la rocade, mais son nom, je cherche son nom, elle a un nom. Personne ne va me le dire, comment s'appelle l'avenue du Général de Gaulle. Elle est toujours Général de Gaulle à cet endroit-là. Exact. C'est Général de Gaulle jusqu'au rond-point de la Croix des Îles. Ouais. Donc, voilà. Soyons vigilants. Nous travaillons aussi sur l'amélioration du campus en matière d'offres sportives et donc d'attrait de notre campus qui avait besoin d'un coup de d'accélérateur, et pas de booster, d'accélérateur. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bien. Eh bien, écoutez, je pense que s'il n'y a pas de questions, c'est qu'a priori, c'est bon signe. Quand il n'y a pas de questions, c'est que tout le monde doit être unanimement d'accord pour que ça se fasse. Il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. C'est Maréchal Juin. Monsieur Lurton. Monsieur Lurton, monsieur le député a été pris en défaut. C'est Maréchal Juin, c'est pas De Gaulle. C'est plus De Gaulle. Je pense que De Gaulle, ça doit s'arrêter du côté du
chemin. L'Espérance, peut-être.
Du chemin de fer, non, par là. Un peu plus loin, quand même. Allez. Ouais. On vérifiera.
Il y a une petite avance sur la 2011, c'est que j'ai la procuration d'Yvalère qui souhaitait s'abstenir parce que son fils est impliqué dans le projet.
Sur la 11 Ah oui, donc je reviens deux. Attendez, je finis d'abord. Donc il n'y a personne ne s'oppose ni s'abstient. Merci. Donc la délibération numéro 16 est votée. Et madame.
Sur la 11.
Oui. Madame Lombardi revient en arrière. Sur la 11 est là la délégation de monsieur Allaire qui souhaitait s'abstenir sur la 11 parce que, bon, il en est proche pour différentes raisons, donc il ne veut pas participer au vote. Voilà, donc on rectifie, si vous voulez bien. La 17, sa 17, c'est monsieur Charpie qui doit reprendre la main. Normalement, on est à la Balue, boulevard de l'Espadon.
On voyage beaucoup dans Saint-Malo aujourd'hui. Donc là, il s'agit d'un projet qui est mis en œuvre par la société Réalité Promotion, un immeuble de 56 logements et 4 locaux d'activité sur un terrain qui est bordé par la rue de la Balue, le boulevard de l'Espadon et la rue de l'Amitié. Donc là, on a, dans le cadre du nouvel alignement, le long du boulevard de l'Espadon, l'implantation du projet permettra d'aménager l'espace public avec un prolongement de la piste cyclable et du trottoir le long du boulevard de l'Espadon. Donc il faut dans ce cadre-là une rétrocession au profit de la commune d'une emprise d'environ 82 mètres carrés. Par ailleurs, ce projet prévoit un stationnement en sous-sol intérêt pour 72 places. Et pour, je sais si vous avez vu le plan, pour bien rendre le parking bien rectangulaire, la société Réalité Promotion a sollicité l'acquisition, après déclassement, d'une surface de 45 mètres carrés du tréfonds sous le domaine public. Cette emprise est sans utilité pour la commune et donc on a prévu de procéder à un échange foncier sans soulte.
Voilà, on a juste les perpendicularités. Voilà. Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention non plus. Merci. Nous allons maintenant rue du Commandant l'Herminier. Allez, un petit coup vers Rotenneuf.
Donc, la commune a prévu la réalisation d'un bassin de retenue des eaux pluviales sur un terrain qui lui appartient, qui est situé rue du Commandant l'Herminier, afin de réguler le déversement des eaux de pluie sur le secteur du Clos Poussé. Dans le cadre de cette réalisation, la commune doit se porter acquéreur d'une bande en tréfonds d'un terrain appartenant à la société Codif International d'environ 115 mètres carrés. Dans le même temps, et dans le cadre de ces nécessités de fonctionnement, la société Phytomère a sollicité la possibilité de bénéficier d'un terrain adjacent à son laboratoire et à proximité immédiate de son établissement de spa et soins. Ceci pour lui permettre d'aménager des places de stationnement et un espace paysager. Pour répondre à cette demande, il est prévu de réaliser un bassin enterré sur lequel sera aménagé par la société Phytomère un espace paysager privatif. Ce volume en surface sera cédé à la société Phytomère, mais le volume en tréfonds correspondant au bassin de retenue sera conservé par la commune. Dans le cadre de cette opération, il est ainsi prévu que la commune cède à la société Codif International le volume du sol au-dessus du bassin, d'une superficie au sol de 1487 m² et la pleine propriété du sol de la parcelle d'une superficie d'environ 292 m². Au terme de cet échange, une soulte d'un montant de 150 076,80 euros hors taxes est due par la société Codif International, qui par ailleurs conserve à sa charge les frais afférents à la pose de clôture, à l'éclairage ainsi que les aménagements paysagers.
Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Bon, on a besoin de faire un bassin d'orage, et là on le couvre en fait pour utiliser aussi la surface. Il n'y a pas de questions ? Allez, eh ben, pas d'opposition ni d'abstention. Merci. 19, on va à Saint-Étienne. Allez.
Voilà, donc là, c'est une petite opération, un échange foncier sans soulte, l'acquisition par la commune d'une emprise de 25 mètres carrés et la cession par la commune d'une emprise de 14 mètres carrés. Voilà. Donc,
pas de questions là-dessus ? Non, on n'a pas d'opposition ni d'abstention ? Très bien. Rue René Capitain, il y a un certain nombre de transferts. Voilà,
donc là, on est sur des délibérations très
petites
techniques.
Petites opérations.
Hein. Là, c'est la commune de Saint-Malo qui souhaite régulariser la situation juridique de la rue René Capitain, qui est une voie qui est ouverte au public, mais qui est entretenue par la ville et qui, en fait, appartient aux riverains. Donc, on utilise les dispositions du Code de l'urbanisme qui prévoit qu'on puisse transférer d'office la propriété des voies privées ouvertes à la circulation dans le domaine public, et ceci sans indemnité.
Voilà. Oui, monsieur. Suite.
Mais lorsque l'on fait ce transfert d'office, est-ce qu'il y a des conditions pour les propriétaires de remise en état de la voie avant transfert? En ce sens que si on récupère une voie entièrement délabrée.
Monsieur Ménard, vous lui répondez là? Vous n'avez pas la réponse.
Non, mais c'est pas.
Allez-y. Ouais,
allez-y, excusez-moi.
Ce que je peux répondre, c'est qu'en fait, c'est une voie qui est entretenue depuis toujours par la municipalité. Donc en fait, elle est dans un état qui est celui des voiries municipales. Et comme on le fait sans indemnité, il n'y a pas eu de demande dans ce cas-là qui est faite de remise à niveau. Ça serait quand même un petit peu difficile à avaler pour les riverains.
Mais alors, dans l'hypothèse où il y a une voie ouverte à la circulation qui n'a jamais été entretenue par la mairie et qui est en état de dégradation relativement avancé, comment ça se passerait? Puisque là, les travaux ont été faits par la mairie, mais une voie ouverte au public, si on peut la réintégrer. Parce que la question s'est posée, mais j'ai plus le nom de la rue en tête. On en a parlé il y a un an ou deux de ça. Je vous redonnerai le nom, monsieur l'adjoint, donc on verra ça en dehors du conseil. Mais il y a quelques voies à Saint-Malo qui sont restées des voies privées, qui ne sont pas entretenues par la mairie, alors que ce sont des voies de circulation normales. Enfin, normales, c'est à utiliser par tout un chacun pour couper, etc. Donc, et à l'époque, quand on avait discuté, il semblait qu'on ne pouvait pas récupérer la voie en question, dont je vous redirai le nom, monsieur l'adjoint.
Pas celle-ci.
Une autre. Parce qu'elle était trop délabrée, il fallait auparavant que les propriétaires la mettent en état. Donc je trouve qu'il y a un déséquilibre entre cette délibération-là et d'autres choses qui sont produites. Donc c'est là-dessus que je voudrais qu'on éclaircisse. Peut-être qu'on pourra le voir plus tard.
Les cas de figure doivent être assez nombreux.
Alors à ce moment-là,
c'est une situation qui est assez fréquente d'ailleurs dans Saint-Malo. Il y a beaucoup de voies qui ont été constituées au moment de l'urbanisation de Saint-Malo qui sont restées privées, qui sont pour certaines d'entre elles ne participent pas à la circulation générale. Pour d'autres, participent. Donc chaque cas doit être regardé en fonction de la situation. Si la voie qu'on récupère, elle a un intérêt pour le désenclavement, la circulation, paraît assez logique qu'en contrepartie de la cession, au moment où la ville puisse intervenir et refaire la chaussée, ça peut arriver. Dans d'autres cas de figure, lorsque c'est une voie qui n'a pas un caractère qui sert pas à la desserte générale, mais c'est plutôt une charge qu'on enlève aux riverains lorsqu'on la récupère, c'est de se retrouver dans une situation de récupérer effectivement une voirie, mais dans un état convenable. Quoi. Mais,
si vous êtes d'accord, c'est des choses qu'on verra en dehors du
conseil.
Oui,
mais
j'aurais sans doute l'occasion de vous reposer la question de manière plus précise une fois qu'on aura eu des échanges sur cet équilibre entre les différentes voiries possibles.
Oui, oui. Mais oui. Oui, oui.
Je pense qu'il faut regarder d'où vient l'initiative de l'opération. Dans ce cadre-là, c'est une initiative de la mairie. Quand effectivement, c'est
parce qu'elle a un intérêt pour la mairie.
Voilà. Quand c'est une initiative qui vient des riverains, parce que justement, ils ont une voie privée qui est utilisée éventuellement de façon publique, mais qu'elle leur occasionne des dépenses importantes, c'est eux qui viennent vers la mairie. Et là, il y a effectivement une discussion qui c'est donc un focus qui est complètement différent, je pense, par le niveau d'initiative.
Mais ça vaut la peine de revenir là-dessus. Oui, mais il y a raccourci et raccourci après. Et dans Saint-Malo, il y en a beaucoup de situations comme ça. Beaucoup, beaucoup. Donc il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Merci. La rue du Parquet.
Aussi une régularisation. Lorsqu'on a prévu la modification de l'arrêt de bus pour le mettre aux normes d'accessibilité dans la rue du Parquet, on s'est rendu compte que l'assiette foncière d'intégrité de la rue fait partie intégrante des parties communes de la copropriété de Lodet. Donc on propose de les acquérir auprès du syndicat des propriétaires pour 1 € symbolique.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention. On va maintenant au tertre Beaulieu. Il y a aussi un échange foncier.
Voilà, qui s'est mis en justifié par l'opération des 5 maisons qu'on construit sur le théâtre de Beaulieu avec la Rance. Mmh. Et là, donc c'est un échange foncier sans soult avec Madame Franchi Richard, que j'ai rencontrée plusieurs fois sur cette opération. Donc on acquiert 27 mètres carrés de superficie à usage d'espace vert et on rétrocède par contre une partie au droit de sa propriété qui n'a plus d'intérêt pour la commune.
Voilà, on est dans ces opérations d'ajustement de l'espace public dans un sens ou dans l'autre. Pas d'opposition, d'abstention non plus. Merci. Saint-Iduc.
C'est pareil, là, on se porte acquéreur à décrocher pour 7 mètres carrés, donc il faut y passer moins de 30 secondes.
Bon, les 7 secondes sont passées. Il y a peut-être une question à de 20 secondes, Maxi. Oui.
Bon, c'est 100 euros, hein.
Pas de questions, non. Pas de, d'opposition ni d'abstention, merci.
Voilà, j'ai oublié de dire qu'il fallait qu'on déclasse l'emprise du domaine public communal avant.
Bon, maintenant on va rue du Plessis.
Donc là, c'est l'association La Montuluette qui est propriétaire d'un ensemble foncier sur le secteur du Plessis. Lors du projet d'aménagement de 17 logements locatifs sociaux, on s'est rendu compte qu'une partie du foncier intégré dans l'enceinte de la propriété de l'association n'était pas cadastré et correspondait à une emprise classée dans le domaine public communal. Donc l'analyse de la situation montre que ça semble résulter d'une erreur dans la mise à jour par le service du CADAX de ces fichiers, et c'est pourquoi on demande, au regard de la configuration matérielle de ce foncier qui est complètement enclavé dans la propriété de l'association, de régulariser la situation juridique en proposant la cession de ce foncier au prix toujours aussi symbolique d'un euro.
Pas de questions non plus, pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Monsieur Bénard, la 25e délibération, les amendes de police qui diminuent et qu'il faut répartir sur des... Vous savez, la règle, hein, on nous réaffecte les amendes de police suivant une règle nationale et il faut réattribuer ça à des chantiers définis à l'avance. C'est monsieur
Bénard. Oui, monsieur le maire, merci. Bénard. Bon, c'est une délibération qui revient chaque année au titre des... amendes de police qui reviennent donc à la ville. Pour l'année 2016, on a un montant de 427 631 euros. Et le versement de cette dotation est donc subordonné à l'engagement de la collectivité d'affecter cette somme à la réalisation de travaux d'amélioration de la sécurité et de la circulation routière. Donc pour l'année 2016, cette somme a permis de régler en partie les investissements rue Paul Chenu, rue de la Vallée de Beaulieu, l'avenue des Comptoirs, la rue Le Pommelec, la rue de la Fontaine aux Pèlerins, la digue du Sillon, l'avenue des Fontenelles, la rue des Antilles, la rue Georges-Clémenceau, la rue de la Passagère, le boulevard des Déportés et enfin l'avenue du Général Ferrier pour un ensemble de 430 000 euros, donc légèrement supérieur à cette dotation. On remplit donc le contrat qui nous est demandé. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a des idées géniales là-dessus? Oui, M. Cid.
Non, juste pour vous informer, je ne dirai plus rien concernant l'orthographe de Clémenceau. C'était... voilà, je ne dis rien. Je ne dis rien.
Bon. Voilà. C'est dommage. Non, on arrête. Allez, personne ne s'oppose, ni s'abstient. Merci. On va parler maintenant du territoire à énergie positive pour la croissance verte. Madame Le Talec est tout oui. Voilà, une convention de partenariat et d'innovation avec le CEREMA. On en avait déjà parlé ici, mais on y revient. Jacques Bénard.
Oui, alors c'est une convention, donc, pardon, convention de partenariat et d'innovation avec le CEREMA qui va nous permettre de réaliser une étude pour une gestion différenciée de l'éclairage public sur le territoire de la ville de Saint-Malo. On a, dans le cadre de cette convention, la possibilité d'obtenir une subvention du CEREMA également dans le financement de cette étude, sachant que en ce qui concerne l'éclairage public à Saint-Malo, c'est actuellement un poste de dépense assez importante, puisque ça représente un peu plus de 700 000 euros. Et l'étude différenciée devrait nous permettre de réaliser quelques économies en ce qui concerne cette facture de fluide. L'étude en question est d'un montant de 59 000 euros. Et le montant qui serait investi par la ville est de 47 000 euros. Le CEREMA intervenant pour sa part pour un montant de 12 000 euros. Donc, il vous est demandé d'approuver le passage de cette convention avec le CEREMA.
Est-ce qu'il y a des questions? Non? Personne ne s'oppose, ne s'abstient non plus. Merci. Une petite subvention à la prévention routière, monsieur Bénard, la 27.
Oui, là également, il s'agit d'une subvention accordée régulièrement à la prévention routière, Il s'agit d'une somme de 270 euros que nous vous demandons de bien vouloir approuver.
Pas d'opposition ? Qui osera ne pas donner 270 euros à la prévention routière ? Personne. Unanimité. Merci. Les 28, 29, 30, ça a été vu tout à l'heure avec Mme Guinemer. On arrive donc à la 31. C'est Mme Flo qui nous parle de la révision des tarifs pour un certain nombre d'activités culturelles. Mme Flo.
Et en fait, ça fait suite à une délibération qui a déjà été prise le 8 décembre 2016. Et il y a quelques propositions nouvelles qui viennent compléter cette délibération. Il s'agit de, par exemple, au musée d'histoire où il y a une création d'une nouvelle boutique. Il faut fixer le prix des ouvrages qui vont être mis en vente. Il s'agit aussi de revoir le droit d'entrée des expositions, plus particulièrement celui de l'exposition d'été à la Chapelle Saint-Sauveur. Il s'agit aussi de fixer un prix. Dans le cadre des rencontres de Art et Sciences qui vont avoir lieu du 29 au 30 septembre, le thème de l'édition, c'est le goût. Et donc, il a envisagé de proposer une dégustation. Et il convient aussi de vous proposer un prix. Voilà ce qu'il nous est demandé d'accepter ce soir.
Merci, Mme Plot. Est-ce qu'il y a des questions, là aussi ? Non. Personne ne s'oppose ni s'abstient. Merci. Passer au tarif des théâtres. Mme Hervé.
Oui, merci, Monsieur le Maire. Donc, nous avons voté il y a quelque temps l'attribution de la délégation des théâtres à la société GMD Productions. Et la réglementation leur impose de nous proposer, de nous éditer leur tarif 2017-2018, ce qu'ils ont fait. Et nous devons, donc, je propose de les approuver. Donc, comme vous pouvez voir, ils n'ont pas bougé par rapport à l'an passé, à part deux tarifs intermédiaires de 25 et 30 euros qui ont été rajoutés.
Voilà. Merci, Madame Hervé. J'en profite pour évidemment indiquer que nous avions souhaité qu'alors que nous changions d'exploitant du théâtre, le prix des places soit contenu. C'est ce que vous venez d'expliquer tout de suite. Et vous avez pu d'ailleurs le voir, le constater, l'entendre, suivant que vous avez participé ou pas à la première soirée de présentation de la saison théâtrale qui était de qualité, puisqu'on va recevoir un certain nombre de spectacles tout à fait exceptionnels. La presse s'en est déjà fait l'écho, donc je pense que nous avons réussi notre choix, si je puis dire. Enfin, on verra les choses se dérouler par la suite, mais déjà, la qualité de la saison théâtrale est remarquable, avec des têtes d'affiche d'un haut niveau, comme vous avez pu le voir avec Fabrice Lucchini. Une pièce de théâtre qui a été primée au Molière, qui a dû recevoir 5 Molières. Et d'autres spectacles, pour un nombre de spectacles d'ailleurs un petit peu supérieur à celui des années précédentes. Du même, ben, quelques unités de plus. Voilà, donc, qui veut poser des questions ? Non, personne n'est contre ni s'abstient, mais voilà, je vous souhaite aussi d'aller le plus souvent possible au théâtre cette année, bien sûr, trouver le moment pour y aller. Et profiter, comme tous les Malouins. Alors, la 33, Monsieur Bory, on va parler du musée d'histoire maritime et de la prise en charge des membres du conseil scientifique. Alors, je voudrais dire une chose juste en préambule, et je passe la parole à Monsieur Bory, c'est qu'il s'agit effectivement d'effrayer les membres du conseil scientifique qui a été constitué d'un certain nombre de personnalités très connues dans le monde évidemment de la culture et qui sont des personnalités qui viennent d'ailleurs. Alors je vais laisser Jean Bory en parler plus avant, mais je voudrais dire tout de suite que nous avons j'ai l'intention aussi de constituer une commission, un comité. Alors, le nom, il faudra qu'on l'affine, mais un comité consultatif qui sera constitué d'un certain nombre de personnalités, pour l'essentiel local, qui ont à apporter leur pierre à la constitution du programme, qui sera de la programmation, en fait, parce que au travers de leurs compétences reconnues, par leurs contributions déjà remarquées par des publications, des livres ou toute autre contribution à la culture malouine et à l'histoire de Saint-Malo, on leur place dans ce comité. Donc on n'a pas fixé le nombre ni la liste aujourd'hui, mais mon intention, c'est de... c'est d'interroger les différentes associations, institutions qui sont très proches du sujet, pour leur demander de bien vouloir participer à ce travail de cette commission, donc de ce comité consultatif, c'est ainsi comme nous l'avons appelé. Et je serai donc amené à désigner les personnes qui seront finalement retenues sur proposition des uns et des autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors on n'a pas fixé le nombre, on n'a pas mis de numerus clausus, il faudra quand même que ça reste dans des limites raisonnables. Mais bon, on voit bien, on a à l'esprit quelles sont les personnalités qui peuvent apporter une contribution qui doit aller au-delà de la simple participation, parce qu'on a un intérêt pour l'histoire, pour qu'il y ait vraiment pour qu'on puisse s'appuyer sur déjà des travaux, des réflexions, des publications qui justifient leur l'entrée dans ce comité. Et ça, on va le faire de façon rapide avec Monsieur Bory. Pour la rentrée de septembre, on ait pu mettre en place ce comité consultatif. Je voulais le dire parce que c'est une question qui était dans les esprits des uns et des autres et qui ne nous avait pas échappé pour nous non plus. Monsieur Bory.
Merci, monsieur le maire. Donc, ce conseil scientifique regroupe des spécialistes reconnus qui agissent dans différentes spécialités. Il y a l'histoire, mais il y a aussi l'archéologie, la muséologie, les problématiques de conservation et de restauration. Donc les cinq personnes qui ont accepté de faire partie de ce conseil scientifique, je pense qu'on en connaît bien trois au moins, puisque tous ceux qui s'intéressent à l'histoire connaissent André l'Espagnol, qui a fait une thèse qui fait autorité sur les messieurs de Saint-Malo, une élite de négociants au temps de Louis XIV, qui est un spécialiste incontesté de Saint-Malo du XVIe au XVIIIe siècle. Ensuite, il y a Michel Lourd, le DRASM, le responsable des recherches archéologiques qui dépend du ministère de la Culture, et Madame Vera, qui ont mené les fouilles de la Natière. Et puis il y a Monsieur Guiguenot, que je ne connais pas personnellement, mais qui est au musée de la Marine, le directeur du musée de la Marine de Paris.
Que je connais, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est le nouveau conservateur du musée de la Marine depuis maintenant 2 ans.
Voilà. Ce qui laisse augurer d'ailleurs de relations intéressantes avec ce musée de la Marine. Et puis enfin, Monsieur Kelly Guyane-Coteau, président de l'association Bretagne Musée, qui est conservateur en chef directeur du port du musée de Douarnenez. Donc cette délibération vise à faire accepter le remboursement de leurs frais de déplacement, de restauration et d'hébergement, tout simplement.
Voilà. Voilà. Comme ils viennent de loin, il faut un peu les défrayer. Ce qui ne sera pas nécessairement le cas de ceux qui habitent Saint-Malo. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Pas d'opposition ni d'abstention. Ouais. Merci, c'est important d'avoir des personnalités nationales reconnues. Ça montre l'importance qu'ils attachent eux-mêmes, parce qu'ils ont été évidemment interrogés, qu'ils attachent à notre musée. Bien, pas d'opposition ni d'abstention, donc c'est bon. La 34 porte sur des subventions exceptionnelles à des associations culturelles. Madame Hervé.
Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de deux demandes de subventions de la part de deux associations qui concernent des disciplines artistiques plutôt nouvelles. La première, c'est l'association Même Pas Mal qui organise ce qu'ils ont déjà fait l'année dernière, la Battle Corsaire. C'est une danse de hip-hop qui avait eu beaucoup de succès, organisé par un Malouin de renommée mondiale dans ce domaine et qui avait réuni beaucoup de monde l'an passé. Donc il renouvelle l'expérience pour un montant de 6 000 euros. La deuxième demande émane de l'association Graffitim concernant l'opération Teenage Kick qui avait eu lieu il y a 2 ans pendant le Quai des Bulles et qui consistait donc à effectuer des fresques de muralisme sur différents endroits de Saint-Malo. Il y en avait eu 3 et cette fois ils vont en réaliser 4, toujours dans l'opération Quai des Bulles. Donc la demande de subvention, là, cette fois, est de 10 000 euros, mais ils sont pris dans la bourse à projet de l'adjoint à la culture. Voilà, enfin, c'est pas l'adjoint, c'est pas le ministère non plus.
La bourse à projet de l'adjoint à la culture.
Je cherchais le terme. Bon. Voilà, donc je soumets ces 2 demandes de subvention au vote pour des belles choses pour la ville.
Merci, Madame Hervé. Bon, voilà, Monsieur l'adjoint considère qu'il a ce qu'il faut pour faire face. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, il n'y a pas d'opposition, j'imagine. C'est bien d'avoir aussi à nouveau un peu d'art urbain. Ce sera... On a réussi déjà une première fois des choses intéressantes. Donc il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Nous allons passer à la 35e qui porte sur la délégation de services publics pour l'exploitation du centre de musique actuel. Donc le choix du délégataire, puisqu'il y avait effectivement un appel à candidature qui avait été lancé. Alors je ne prendrai pas part aux échanges ni au vote, puisque même si j'ai un fils qui n'est plus dans l'affaire depuis très longtemps, il faut toujours être, continuer à ne pas s'en mêler directement. Donc je laisse M. Bory piloter le débat. Et je vais me mettre dans ma réserve.
Oui, donc cette délibération vise à choisir le délégataire pour l'exploiter, le centre de musique actuel. Très rapidement, je voudrais rappeler que la délégation de services publics actuelle arrive à son terme en septembre 2007, qu'elle avait débuté en octobre 2012, que les débuts avaient été un petit peu compliqués, avec une deuxième partie beaucoup plus réussie en termes de fréquentation, de diffusion, de rayonnement et d'équilibre financier, puisque on peut dire que il y avait à peu près 14 à 16 000 spectateurs annuels en début de délégation, et actuellement c'est 21 à 22 000, avec des concerts plus nombreux, des concerts pleins, des actions hors les murs, des résidences, donc quelque chose qui marche bien. Voilà. Donc la procédure est rappelée dans la délibération. Je vous rappelle que le 2 février 2017, nous avions approuvé le principe du recours à une délégation de service public sous forme d'affermage. La procédure s'était inscrite dans un cadre juridique défini, avec des publications dans différents journaux spécialisés, que la limite de réception des candidatures avait été fixée au 17 mars à 17h, et que 3 dossiers avaient été reçus, examinés en commission de délégation de service public le 20 mars, puis le 27 mars. Et à l'issue de cette procédure, la commission de délégation avait retenu une seule candidature, celle de l'association Rock Tympan. La commission de DSP s'est ensuite réunie le 21 avril 2017 pour analyser l'offre sur son aspect technique, c'est-à-dire le volet culturel, et puis la qualité financière de l'offre. 2 réunions de négociation ont lieu entre le 12 et le 13 mai et le 23 mai. Qui ont abouti à un nouveau contrat de délégation de service public, sur lequel je voudrais quand même dire quelques points importants. Le premier point, ce qu'on appelle le plan technique, c'est le volet culturel. Je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est un élément fort du paysage culturel malouin et que... s'il y a un contrat, c'est bien pour défendre et promouvoir un projet culturel. le projet culturel que nous prenons, que nous développons, je vous rappelle, il est écrit dans toutes les délibérations importantes qui concernent la culture. Ça repose sur trois axes, la culture partout et pour tous, le patrimoine, qui est moins pertinent avec la nouvelle vague, et puis les horizons nouveaux, là qui est beaucoup plus pertinent, qu'on peut décliner très rapidement sur les aspects de la politique tarifaire et puis la recherche de nouveaux horizons musicaux. Ça, c'est les aspects les plus généraux. La politique culturelle de la ville dans le domaine de la musique, elle reste très ambitieuse, puisque je vous rappelle que nous avons le projet de faire un conservatoire à rayonnement départemental, qui est quand même un projet phare dans le domaine de l'éducation artistique, et que les actions qui sont menées en faveur des musiques actuelles sont nombreuses en termes d'investissement, de temps passé, de promotion, de rayonnement. Il y a bien sûr ce centre de la nouvelle vague, et il y a aussi le soutien au concert, et puis il y a au festival de la Route du Rock, et puis il y a aussi tout ce qui se met en place dans le cursus de musique actuelle, diplômant cursus qui est développé en partenariat entre le conservatoire et l'association Parole et Musique. Donc ce volet culturel, je le brosse rapidement, mais enfin c'est quand même je pense le point le plus important. Donc la négociation a porté sur ces différents aspects. Je voudrais rappeler aussi que la Nouvelle Vague, c'est pas uniquement un centre de diffusion. Bien sûr, c'est ce qu'on voit de plus saillant, hein, c'est-à-dire tous ces concerts à guichet fermé pour aller voir Biolay ou Christophe ou d'autres artistes. Mais il y a aussi des actions culturelles de terrain, le rayonnement sur le territoire, l'éducation artistique, la création avec des activités de résidence. Et puis j'en oublie sûrement, le soutien évidemment à la politique associative, puisqu'il y a beaucoup d'associations aussi qui s'appuient, qui travaillent avec la Nouvelle Vague. Donc ce volet culturel, c'est vraiment, je pense, très important de le brosser à grands traits. Voilà. La négociation a porté sur tous ces différents aspects, et de manière très schématique, c'est... La ligne culturelle sera à peu près la même, en plus étoffée, plus de concerts, plus de variétés, plus d'actions hors les murs. Et puis le délégataire est assez attaché à obtenir, et nous aussi d'ailleurs, à obtenir une labellisation SMAC, qui est un petit peu le label qualité, 4 étoiles comme pour un hôtel, quoi. Donc, qui est un label attribué par le ministère de la Culture. Donc ça, c'est le volet culturel. Le deuxième aspect de la négociation, ça portait sur les aspects juridiques. Avec une nouveauté, une association ad hoc va être créée, basée à Saint-Malo, qui aura pour seul objet l'exploitation de la nouvelle vague. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est que l'association Rock Tympan effectuera au profit du délégataire une prestation de service qui sera fixe, donc qui apparaîtra clairement dans le bilan. Et puis le dernier point que je voudrais souligner, mais je pense que ce n'est pas très important, c'est que la durée de la délégation, c'est 5 ans comme la précédente. Et puis le troisième volet concerne les aspects financiers, avec une nouveauté, ce qu'on appelle le GER, le gros entretien renouvellement, puisque avant, les investissements qui étaient réalisés étaient votés en conseil municipal par des délibérations. Là, il y aura une somme non linéaire, mais dont le montant est fixé sur la durée de la DSP, qui est à 220 000 euros. Et puis, il y a une subvention de fonctionnement qui était cette année de 662... En année, on ne peut pas compter en année civile parce qu'il y a eu 50 DSP, donc la DSP s'arrête en mois de septembre, mais dans le contrat initial qui arrive à son terme en septembre, la dernière année, c'est 662 450. On repart avec une subvention de fonctionnement qui sera de 620 000 et qui sera, contrairement à la précédente délégation de services publics, une subvention fixe sur toute la durée de la DSP. C'est 620 000 euros par an pendant 5 ans. Donc un gain sur le plan financier qui est assez substantiel également. Voilà, donc je pense avoir dressé les principaux, souligné les principaux points de cette délégation de service public. Et je vous demande de bien vouloir l'accepter, moi, que le débat, puis vous souhaitiez engager un débat sur ce sujet. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a des gens qui...
Oui, merci. Donc, concernant cette délégation de service public, bon, c'est vrai qu'on a le délégué. Alors, le délégataire, d'abord, je suis ravi, première chose, que, effectivement, monsieur le maire, dans un hiver très proche, vous puissiez reprendre la parole sur tous les sujets, y compris celui-là. C'est quelque chose que nous souhaitions et qui s'est produit. C'est une très, très bonne nouvelle. Sur ce dossier-là, c'est vrai que quand on propose en délégation une DSP sur ce type de salle, on a relativement peu de dossiers qui arrivent. On a eu 3. Et en fait, dans la pratique, sans trahir de secret ou autre, je dirais qu'il y en a un seul qui s'est réellement dégagé. Vous l'avez dit, un seul a été retenu à l'issue d'une première étude. Cela signifie qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de choix sur ce type de projet, quand on propose une salle comme ça en délégation de service public. Alors, c'est vrai que la gestion de cette salle par cette association s'est, semble-t-il, nettement améliorée, y compris dans l'ambiance. En revanche, c'est vrai que nous, pendant longtemps, on a demandé à ce qu'une phase de remise, au moins une phase de remise en régie sur cette salle, du fait de certains dysfonctionnements que nous avions à l'époque relevés. Voilà, c'est difficile d'avoir un avis tranché, puisqu'en fait on a un seul dossier et du fait de leur expérience, nous pensons qu'ils sauront à peu près, enfin qu'ils sauront faire. C'est vrai qu'il y a une diminution du coût pour la collectivité. Ça reste un coût élevé, mais de toute façon, le spectacle vivant coûte cher. Donc, il est normal qu'on dépense de l'argent pour le spectacle vivant en général, la culture vivante. Donc, pour ces raisons mitigées, nous nous abstiendrons sur cette délibération.
On va procéder au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Voilà. Je vous remercie.
La parole, alors,
c'est adopté.
Allez, alors, je vais reprendre la parole. Alors. Non, mais monsieur, si je reviens 2 minutes en arrière, on n'est pas bien compris là. C'est incroyable quand même la façon dont nous sommes contraints. En tant qu'élus, je vous le dis tous, hein. Que ça, tous, on peut être concernés d'une façon ou d'une autre. C'est alors que mon fils n'est plus rien dans cette association depuis 2 ans, juridiquement, on me dit tant qu'il n'y a pas 5 années de passé. 5 années. 5 années. Vous vous rendez compte un peu ? Enfin, je vous le dis à tous, hein, parce que vous avez tous des enfants qui sont quelque part dans des assos. Donc pendant 5 ans, le jour où ils décident de plus y être, pendant 5 années encore, il ne faut pas participer à quoi que ce soit concernant la vie de cet asso. Vous voyez, on est... Alors, je suis... Pendant encore 2 ans et demi, alors peut-être, non, je ne sais pas. Bon, enfin, voilà. C'est pour que les choses soient claires. C'est un détail technique, oui. Qu'il est bon que tout le monde sache. Hein. Oui, c'est pas réglementé. Oui, c'est la loi. Voilà. Nous allons maintenant passer à la question suivante qui se situe. Alors, c'est la numéro. Laquelle ?
36.
36, voilà. 36, le règlement intérieur du Conseil municipal de Gênes. Monsieur Coudray.
Oui, merci, monsieur le maire. Effectivement, c'est un avenant concernant le règlement intérieur. Du conseil municipal de Gênes. Et après 16 mois de fonctionnement, il est bon de revenir sur ce règlement pour y apporter des précisions dans la vie du conseil municipal de Gênes. Donc je vous laisse prendre information des différents points, mais ce qu'il est important de rappeler, c'est surtout les actions du conseil municipal de Gênes, et j'attire votre attention, jeudi prochain à 18h au centre Allende, il y aura une des actions qui est en cours, dont vous verrez les fruits au sein du conseil municipal de Gênes. C'est une soirée sur le harcèlement, avec une soirée théâtre-débat avec le docteur Morillon. Donc je vous y invite tous Et tout, en tout cas, voilà, ce sont les points concernant la modification du Conseil municipal de jeunes que j'appelle au vote.
Merci. Alors avant d'appeler au vote, on va quand même envoyer la question, si certains veulent intervenir sur cette question. Non. Bon, on modifie le règlement intérieur, on précise les choses par l'écrit. Puisque, bon, il y en a qui se sont prévalus de leur appartenance au Conseil de jeunes sur des bulletins de vote au moment de ces dernières élections, comme vous le savez. Bon, voilà. Donc, il faut mettre les choses plus clairement. Voilà, c'est ce qu'on fait, pour éviter les difficultés. Oui. Jean, on coupe le micro, voilà.
Juste une question. C'est bien, cette délibération intervient et la décision qu'on nous demande de prendre, c'est bien parce que la personne en question s'en est prévalue sur son bulletin de vote et non pas parce qu'il s'est engagé plus avant dans...
Non, le cahier, le règlement intérieur était, je dirais, pas suffisamment précis sur cette question-là. Par contre, le fait de ne pas se prévaloir sur, etc., ça, c'était précis. Alors que maintenant, on remet les choses précises sur toute la ligne, pour éviter les interprétations. Voilà. Pas d'opposition. Pardon, oui. Oui, allez-y, là. C'est peut-être... Oui, allez-y.
J'avais dit que je n'interviendrais pas, mais j'étais à cette commission, comme d'ailleurs à toutes les commissions. Et donc, j'ai parlé de l'âge des jeunes du conseil municipal. Et c'est certain, il est certain, pour avoir travaillé sur un conseil municipal des jeunes sur un autre mandat, il est certain que, étant donné l'âge que nous avons,
que nous avons choisi.
Oui, mais oui, tout à fait. Ouais. On peut être confronté à ça.
C'est une
question. C'est dû aussi à ça, je pense.
Vous avez raison.
Par ailleurs, moi j'ai lu dans la presse des articles commis par en particulier un conseiller municipal qui critiquait le travail qui est fait. C'était quand même assez malvenu par ailleurs, voilà.
Chacun s'exprime, effectivement, mais il vaut mieux... La question que vous posez sur l'âge est un vrai sujet. On a eu l'occasion d'en débattre, effectivement. Toutes les villes n'ont pas pris les mêmes options. Des plus jeunes, plus âgés. Et nous, on a une option qui est plutôt centrée sur un âge où on rentre dans la vie publique, on a tout à fait la possibilité, etc. Donc, alors, certaines communes sont allées carrément sur un autre plan, c'est d'aller sur des beaucoup plus jeunes de façon à leur faire découvrir la vie publique. C'est un débat, à mon avis, qui sera intéressant d'avoir à nouveau. On en a parlé ensemble et je pense qu'effectivement, il y a besoin de se reposer cette question-là pour aller dans votre sens. Nous sommes d'accord là-dessus, c'est un sujet important. Et ça, et du coup, ça enlève les autres aspects. Bon, oui, ceci de plus.
Non, il y a quelque chose qui a été soulevé par Mme Le Tallec, mais elle a raison. Et moi, je ne l'avais pas relevé avant que Mme Le Tallec en fasse mention. Qu'on interdise, qu'on demande dans ce règlement intérieur à une personne de ne pas faire mention sur un tract politique, voire d'être candidat ou élu dans une instance. Mais demander à une personne de s'interdire d'afficher une position, quelle qu'elle soit, politique, syndicale, artistique ou autre, dans les médias, en dehors, quitte à ce qu'on lui demande de ne pas se prévaloir de sa qualité de conseiller municipal, jeune, mais interdire toute expression publique d'une personne, fût-elle jeune, ça paraît quand même un peu excessif.
Non, mais...
Donc c'est un choix, c'est un choix.
D'accord, mais vous comprenez
on votera,
bien.
Attendez, on votera la délibération.
Ouais.
Mais je pense que c'est quand même des choses sur lesquelles on peut se poser des questions.
Oui. Alors après, lorsqu'on a envie de prendre cet engagement, on a le droit. Mais après, il faut faire des arbitrages. On ne peut pas rester dedans en faisant ça. Voilà, c'est ce qu'on dit finalement, Et je pense que ça revient à la question de l'âge. Moi, fondamentalement, c'est ça, je crois, le sujet. C'est de se reposer la question de l'âge. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Tout le monde vote, j'ai compris. Merci. C'est bien d'éclaircir les choses. On a fait on a mis ça en place, il ne faut pas que ça devienne une mauvaise expérience. Voilà. Hein. Oui, ça se construit, exactement. Voilà. Merci. Donc, c'est à l'unanimité. Qui est-ce qui labellise? C'est M. Coudray, le Bige en relais Eurodesk.
Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, nous avons la possibilité de devenir un centre relais Eurodesk au Bige qui va fournir du matériel informatif et nous permettre d'avoir des documents pour fournir de l'information sur les structures européennes et sur le professionnel de l'information jeunesse, les jeunes, les professionnels de l'éducation. Ce relais Eurodesk est bien évidemment gratuit. Et nous avons vu ça d'ailleurs avec M. Huchette qui n'est pas là ce soir, mais c'est totalement dans l'esprit de notre ouverture sur l'Europe, sur le point Europe. Mais il est plus intéressant qu'il soit placé au Bige puisqu'il est principalement dirigé envers les jeunes. Voilà, donc le matériel est fourni. Nos agents sont déjà très impliqués concernant les questions de mobilité, concernant aussi l'Europe, donc mobilité européenne. Donc c'est un plus, mais nous déjà nous faisions de la mobilité européenne avant même la labellisation Eurodesk.
Voilà, qui veut intervenir? Personne. Personne ne s'oppose ni s'abstient. Merci. Madame Levillain, Action sociale, la convention de partenariat entre la ville de Saint-Malo et l'association SC Événements. Donc une subvention à la clé, à vous.
Oui, merci Monsieur le maire. C'est suite à une délibération que le conseil municipal a pris le 30 juin 2016 pour l'association SC Événements qui organise Cœur en Cœur, un spectacle Cœur en Cœur. Nous avions délibéré pour la convention et dans cette convention, il y avait une participation financière de la ville à hauteur de 4 025 €. Donc cette délibération aujourd'hui demande à inscrire les crédits au budget.
Merci. Il y a des questions là? Que Rancœur fait l'unanimité, je pense. Voilà, donc personne ne s'oppose ni s'abstient. Merci. Madame Levillain, le contrat de ville, l'appel à projet et sa programmation 2017.
Et alors là, on est sur toujours le contrat de ville 2015-2020. On a eu la deuxième session du comité de financeurs le 12 mai dernier, donc où se positionnent la ville, le conseil départemental et l'État pour aider les actions dans le cadre du contrat de ville. Lors de cette deuxième session, le comité des financeurs a décidé de soutenir 23 actions, de prolonger l'instruction d'une autre action et de refuser 7 dossiers. Pour sa part, la ville s'est engagée à financer 22 projets à hauteur de 51 800 €. Vous avez derrière le tableau récapitulatif des financements suivant les thématiques. Vous verrez qu'au titre de l'année 2017, sur les deux sessions, la ville s'est engagée à hauteur de 78 530 €, donc sur les 86 000 € de l'enveloppe contrat de ville. Et vous avez une modification dans les tableaux suivants qui est arrivée tardivement, parce que vous verrez, c'est pas la part de la ville, en fait c'est pas l'enveloppe de la ville, mais l'État a fait des modifications par rapport à ce dernier comité de financeurs. Donc vous avez les tableaux annexés qui ne sont pas ceux traités en commission 4, mais qui ne changent rien sur les décisions de la ville.
Merci. Merci Madame Levillain. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On peut voter. Pas d'opposition. Pas d'abstention non plus. Merci. Les ressources humaines. Madame Lombardi va nous parler des indemnités de fonction. C'est la délibération numéro 40. Il y a un changement de mécanisme d'indice. D'indexation.
Oui, merci Monsieur le maire. Oui, en effet. Donc, en fonction d'un décret de janvier 2017 qui s'appelle PPCR, Parcours professionnel, carrière et rémunération, applicable à la fonction publique territoriale, ce décret a eu pour effet d'augmenter l'indice brut terminal de la fonction publique, qui est la référence qui fixe les indemnités de fonction des élus. Donc le conseil municipal est invité à délibérer sur la révision de ces taux et de, donc qui permet de calculer les nouvelles indemnités sur la base de cet indice brut de 2022 à partir du 1er janvier 2017 et qui oblige également le maire à se positionner sur l'indemnité qu'il perçoit, puisque une loi de 2016 précise que l'indemnité du maire est fixée de droit, est fixée au maximum, sauf demande expresse de sa part, ce qui a été le cas du maire de Saint-Malo. Donc nous délibérons à la fois sur cette disposition et sur la base de l'indice qui permet le paiement des indemnités aux élus. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est une mécanique indicielle qui change. Pas d'opposition ni d'abstention, merci. La mise à jour du tableau des emplois.
Voilà, donc ça c'est maintenant un dispositif que nous connaissons bien et qui, à chaque conseil municipal, nous permet d'ajuster notre tableau des emplois en fonction des départs en retraite, des recrutements, des mises à disposition, enfin, de tous les mouvements de personnel que nous avons à connaître entre chaque conseil.
Très bien. Question là aussi ? Non. Pas d'opposition, d'abstention. Merci. La conclusion de contrat d'apprentissage, c'est la 42.
Voilà, donc le maire doit être autorisé par le conseil à conclure en tant que le besoin les contrats d'apprentissage. Donc, pour mémoire, nous en avons aujourd'hui en cours à la ville 6, qui regroupe différents métiers qui vont de l'aménagement paysager au master ville et territoire ou peintre, enfin un certain nombre de contrats d'apprentissage. Donc il y en a 6 à la ville et 1 au CCAS pour former une jeune femme au diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Voilà, mais il faut que vous soyez autorisé à signer
Merci.
Ces contrats.
Alors est-ce que vous m'autorisez ? Personne ne s'oppose à m'autoriser. Je voudrais voir ça. Que quelqu'un s'oppose à ce que m'autoriser à prendre des contrats d'apprentissage.
Voilà. Les contrats d'apprentissage représentent 90 000 euros. C'est un engagement de la ville de 90 000 euros annuels.
Merci. Pas d'opposition ni d'abstention. Merci. L'évacuation pour les conférences au manoir Jacques Cartier, Madame Lombardi.
Oui, donc c'est dans le cadre des animations culturelles, réalisées notamment en coordination entre le conservatoire et le patrimoine historique. Il est proposé de fixer une rémunération pour les personnes intervenant en tant que conférencier au manoir Jacques Cartier. Il est proposé un taux horaire d'avocation à 46,68 euros brut.
Là aussi, pas d'opposition, merci, ni d'abstention. Monsieur Le Pennec, la révision du décret de création de l'EPFR, l'établissement public foncier régional de Bretagne. On l'appelle comme ça, public foncier de Bretagne. Michel.
Pardon.
Oui, l'établissement public foncier de Bretagne que chacun connaît, donc a pour but d'accompagner en fait les collectivités dans leur stratégie foncière. Un titre indicatif, c'est notamment l'établissement public foncier de Bretagne qui porte le RET pour la ville de Saint-Malo. En fait, ça permet d'accompagner les communes, les intercommunalités. Compte tenu de la loi NOTRe, il y a eu un grand nombre d'intercommunalités bretonnes qui ont vu leur périmètre et leur statut modifiés. En conséquence, compte tenu de ces modifications, il convient d'adapter le conseil d'administration de l'établissement public foncier de Bretagne pour prendre en considération ces modifications.
Voilà. Pas de questions là-dessus, non. Moi, je fais remarquer simplement que, vous voyez, pour les 15 communautés d'agglomération, il n'y a que 8 représentants. Donc, c'est dommage que M. Perrin ne soit pas là, mais Mme Guinemer n'est pas là non plus, mais c'est plus M. Perrin, qu'on sera candidatera pour être parmi les 8 représentants en tant qu'agglomération. Nous sommes parmi les territoires qui font appel de façon la plus significative à l'EPFR. Et nous avons un représentant aujourd'hui, qui est d'ailleurs le maire de Cancale, effectivement, et Jean-Michel Pennec est son suppléant. Voilà. Donc j'espère que dans la future distribution des huit représentants, l'agglomération de Saint-Malo en sera. Voilà. Donc je vais passer le message. Par qui de droit ? Alors, tous ceux qui sont susceptibles d'exprimer quelque chose dans cette salle, au bon endroit, le font, s'il vous plaît. Voilà. Donc, est-ce qu'on on a voté là-dessus ? Oui, c'est fait ou pas ? Non, je ne suis pas sûr. Alors, pas d'opposition non plus, d'abstention. Et tout le monde est d'accord pour soutenir l'agglomération, c'est bien. On va subventionner les bouses de vaches.
Ça,
c'est Madame Bureau.
Merci, Monsieur le
Nous
maire.
Nous partons directement vers Rothéneuf.
Voilà. L'association Les Bouses de Vaches a été créée depuis de nombreuses années à Rothéneuf. Et cette année, elle a décidé de programmer sa nouvelle manifestation sur le camping du Nicey. Il nous est demandé d'accorder une subvention exceptionnelle de 2000 euros pour cette manifestation.
Voilà. Vous connaissez tous la bouse de vache de Rothéneuf. La qualité de la bouse de vache de Rothéneuf. La qualité
c'est un gâteau
de
pour ceux qui ne le savent pas.
C'est un gâteau.
Non, merci, mais parce que...
voilà. Ça s'appelle le paumé, je ne sais pas où.
Ah non, le paumé,
c'est pas pareil.
C'est à Saint-Idoc, le paumé.
Oui, mais le paumé de Saint-Idoc et la bouse de... On va faire une étude comparée du paumé de Saint-Idoc et de la bouse de vache de Rothéneuf.
Isabelle,
ça se ressemble quand même un petit peu, hein, quelque part, hein, dans mon souvenir. Hein. Il y a des pommes, oui. Il n'y a pas que des pommes, non. C'est là où est la différence. Bien, donc il n'y a pas d'opposition, bien sûr. Ni d'abstention. Merci. Le lien, l'association que vous connaissez bien.
Malouine. L'association Le Lien est une association à but non lucratif qui œuvre auprès des demandeurs d'emploi en leur proposant des missions de travail rémunérées. Elle assure le suivi et l'accompagnement de ces personnes dans leur démarche vers un emploi durable. Cette association fête son 30e anniversaire cette année. Il nous est demandé d'accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 euros.
Merci. Je pense que personne ne contestera l'intérêt d'aider le lien à fêter son 30e anniversaire. L'association qui a toute sa place dans notre ville. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Abstention non plus. Voilà. La 47e, ça porte sur l'association, enfin sur la réunion des ports du monde, organisée par l'association des ports de Bretagne et d'Europe. Madame Lombardi a déjà fermé son truc, sa tablette, et c'est
merci.
Elle qui devrait présenter
oui, ça.
Oui, ça
y est, c'est bon, merci.
Et voilà.
Oui, en effet.
Qui se déroulera à Genève. Je remplis pendant ce temps-là.
C'est très bien, merci, monsieur le maire.
Non,
c'est
Genève,
parfait.
C'est Gênes. Hein. Genova, plus tard. Voilà. C'est Gênes, du 30 août au 3 septembre. Voilà.
Voilà, oui. Comme la mission qui va être donc conduite par monsieur le maire est en présence de Jacques Huchette pour se rendre à Gênes, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser. Donc, ces deux élus à participer à l'Assemblée générale de l'Association des portes de Bretagne et d'Europe, si tous les ports du monde, qui se tiendra donc du 30 août au 3 septembre prochain.
Voilà, j'ajoute que c'est aussi l'opportunité pour moi de voir le musée d'histoire maritime de Gênes, qui est, paraît-il, exceptionnel. Monsieur Bory l'a déjà vu, et d'autres personnes peut-être parmi vous le connaissent, mais... Donc, je ferai d'une pierre deux coups. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Le rapport annuel du président sur les travaux de la commission consultative. Alors, ça, c'est pour prendre acte, je pense. Hein. Monsieur Bénard.
Oui, effectivement, monsieur le maire, c'est un bordereau qui m'invite à présenter le rapport d'activité de la commission consultative des services publics locaux délégués. Pour l'année 2016, cette commission s'est réunie à trois reprises, le 25 mars 2016, et l'ordre du jour traitait de la délégation de services publics sur le stationnement payant, traitait également de l'approbation du principe de délégation de services publics pour l'exploitation des deux théâtres de la ville, c'est-à-dire le théâtre Bouvet et le théâtre Chateaubriand. La réunion du 24 juin 2016 avait comme ordre du jour l'examen des rapports annuels sur l'exécution des délégations de services publics, ainsi que la réunion du 23 septembre 2016 également, où on a examiné les rapports annuels donc des délégations de services publics. Voilà, monsieur le maire, pour ce bordereau.
Voilà, merci. On prend acte. Personne... voilà, nous prenons acte. Pas de questions. La 49, c'est la communication au conseil de tous les rapports sur justement l'exécution des délégations de services publics. On a un certain nombre, Rock Tympan, Centre de musique actuelle d'Annouillac, établissement Galivelle, ça c'est la Fourrière, la société Galet pour le crématorium, le groupe Barrière pour le casino, la société Cupar pour stationnement payant et GRDF pour la distribution publique de gaz de la commune de Saint-Malo. J'ai tout dit, monsieur Bénard ?
Oui, je n'ai plus rien à dire.
Voilà. Parce que comme c'est la fin, je vous sens un peu épuisé. Donc voilà. Vous prenez aussi acte de tout ça. Je pense que je vous souhaite une bonne lecture à vous consacrer à la lecture de tous ces rapports qui sont généralement fort épais. Alors, nous avons fini l'ordre du jour, mais je dois maintenant évidemment me livrer à l'exercice habituel des questions orales. Et Madame Le Gagne a posé deux questions orales, donc je vous passe la parole, si vous voulez.
Merci, merci Monsieur le Maire. Oui, effectivement, je vais commencer par la première, c'est sur le temps d'activité périscolaire. Après 3 ans de mise en place de ces temps d'activité périscolaire, on note effectivement beaucoup de disparités dans leur application au niveau horaire, rythme différent, côté activité, contenu extrêmement hétérogène. Je voulais savoir si sur Saint-Malo, quel bilan en était fait, et si le décret sur la liberté des communes annoncé pour cet été par le président de la République et le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, était publié, quelle position serait prise par vous-même, M. le maire, en lien avec les écoles ?
Oui, oui, c'est une question effectivement que nous avons eu l'obligation et la nécessité de traiter il y a quelques jours en conseil d'adjoint avec Madame Hervé Renoux. Donc vous savez ce que vient de rappeler Madame Le Gagne, c'est qu'on nous a donné la possibilité d'opter pour effectivement une sortie des activités périscolaires et sur aussi le retour d'ailleurs à la semaine de 4 jours. Alors. On a réfléchi à cette question-là, et c'est vrai qu'on entend des avis extrêmement mitigés sur à la fois l'étape et sur la semaine de 4 jours et demi, certains parents souhaitant revenir à 4 jours. Donc, on aurait pu prendre une position qui consistait à un peu foncer dans la brèche et puis profiter de l'opportunité qui nous était présentée de se retirer du dispositif. Alors, ce que nous avons décidé de faire, ce que nous souhaitons faire, c'est de se donner le temps. Bon, parce qu'on se trouve questionné, on est quand même maintenant arrivé, c'est quasiment la fin juin. L'année 2017-2018, elle est déjà, heureusement, préparée, engagée. Donc, eut égard à l'organisation des collèges, des écoles elles-mêmes, eut égard aussi à l'organisation des activités périscolaires elles-mêmes. Alors, en plus, on mobilise les associations, les clubs sportifs. Ça a modifié, au moment où on a mis ça en place, les plannings. Mais c'est aussi la mobilisation de leurs propres animateurs, salariés et tout. Vu l'ampleur du sujet, on a conclu qu'il était urgent d'attendre. Et donc de réfléchir effectivement à une position différente, avec un peu de recul, et avec le temps qu'il faut pour la rentrée donc 2018, si nous devons prendre une position différente. Voilà, donc c'est la position qui a été retenue donc, et que Madame Hervé Renoux est chargée évidemment d'instruire et de préparer. Là, on a un petit peu de temps devant nous, mais ça veut dire quand même qu'il faudra qu'on prenne des options assez rapidement pour ne pas se mettre à décider la chose dans un an. Il faudra qu'on le fasse avant la fin de l'année, ce serait bien. Avant la fin d'année 2017, qu'on ait pris des options. J'espère aussi que pendant ce temps-là, on aurait peut-être un éclairage un petit peu plus précis de ce que veut faire le gouvernement, le ministre d'Éducation nationale. Enfin bon, qu'on soit un petit peu moins sous un questionnement sous urgence, parce que c'était ça. On a dû recevoir le courrier avec 8 jours pour répondre, 3 jours. 3 jours pour répondre. Donc quand même, c'est un petit peu léger, quoi, hein. Voilà, donc voilà la position que nous retenons. Bon, j'ai pas fait un bilan complet, mais on pourra y revenir sur l'étape, le nombre d'heures, etc. Mais tout ça est disponible. Mais on voit bien au travers de ce bilan-là que le nombre d'associations qui sont concernées, de partenaires est tel que voilà, notre position est, me semble-t-il, la plus sage. Ouais, alors, bien sûr. Mais ça, ça fait partie de la discussion. Madame Lombardi me dit l'intérêt de l'enfant, bien sûr. C'est pas... Mais c'est particulièrement sur la question des 4 jours, où là, ça vient. Et là, les opinions sont quand même bon, sont très différentes. Moi, j'entends tout et son inverse, y compris parmi les professionnels, d'ailleurs. Il n'y a pas une unanimité de position. Et quand alors on écoute les concitoyens, et ce qui a été le cas de beaucoup d'entre nous, et moi particulièrement pendant ces journées de vote, là où on tourne, on croise beaucoup de monde, j'ai trouvé là aussi beaucoup de divergences d'opinion, mais aussi beaucoup de parents qui ont envie de revenir en arrière. Hein, je dois le dire aussi. Peut-être que sur les enseignants, c'est peut-être plus 50-50. Mais sur les parents, je dirais que ça ne l'est pas complètement. Hein. Bon, tout ça, ça va donner lieu à une réflexion qui mettra en avant l'intérêt des enfants en premier, évidemment, des parents, et aussi tous ceux qui nous aident à faire fonctionner tout ça. Alors, bon, il reste, bien sûr, la question finale, c'est celle de la pérennisation de l'aide au financement des TAP. Alors ça... ça s'est maintenu encore pour une année, hein. Ça a été prolongé pour une année, donc après, qu'est-ce que ça deviendra ? La question reste posée. Bon, moi, je ne veux pas mettre cet argument en premier, mais il existe quand même, quoi. Puisque c'est 180 000 euros le montant du fonds de soutien pour la ville de Saint-Malo. Voilà. Voilà, madame Le Gagne, j'espère avoir répondu à votre question. Il y avait donc une deuxième question.
La deuxième question, c'est effectivement, j'étais saisie il y a quelques jours, et comme vous-même, en fait, par les directeurs de plusieurs collèges de Saint-Malo, en tant que, cette fois-ci, conseiller départemental, siégeant dans leur conseil d'administration, sur la problématique des transports des collégiens à la piscine municipale ou vers des infrastructures sportives, transport qui a été pris en charge par la ville dans le cadre d'une négociation qui est ancienne. Il semble que, jusqu'à ce jour, effectivement, la position de la ville était atypique au regard des pratiques d'autres villes de même taille et au regard du contexte des finances locales, cette enveloppe ne pourrait, semble-t-il, pas être pérennisée. Le transport vers les infrastructures sportives ne relevant pas de la compétence de la municipalité, serait-il possible d'avoir un délai sur la mise en œuvre de cette décision ? Le coût pour les collèges est estimé à 7 à 8 000 euros par établissement et aurait donc des impacts sur les choix pédagogiques, les projets éducatifs en lien avec la maire et l'égalité des chances. Dans ce cadre, monsieur le maire, vous avez écrit au président du conseil départemental pour l'en informer. J'en ai fait de même. Nous avons eu, je crois, à peu près la même réponse, moi, orale aujourd'hui, et vous, je crois, par écrit, disant qu'il y avait déjà un support budgétaire qui était fléché. La question risque d'être encore plus prégnante lorsque le bassin aqualudique sera ouvert et que des collèges qui se rendent à ce jour à pied à la piscine ne pourront plus le faire.
Oui. Bon, vous avez bien résumé les choses, effectivement. Alors... Dans les travaux de remise à plat dont a parlé M. Le Pennec en début de séance, qui porte sur tous les domaines, tous les secteurs, hein, notre gestion se veut exemplaire, on revisite tous les dispositifs qui ont pu être mis en place au fur et à mesure des décennies, ou des années ou des décennies. Et effectivement, on tombe de temps en temps sur des questions comme celle-là, où on se dit, mais... Comment se fait-il que la ville de Saint-Malo ait pris en charge des déplacements alors que ces déplacements sont normalement financés par le département, s'agissant des collèges, hein, et par la région, s'agissant des lycées, bien évidemment. Et bien sûr, avant de se lancer dans un échange comme ça, on fait notre parangonnage, comme on dit, et là je l'ai sous les yeux, il est absolument sans appel. Hein. Saint-Brieuc, Lorient, Vannes, Saint-Nazaire, Cholet, Laval, Rennes, toutes tendances confondues, c'est pas de prise en charge pour le second degré par les villes. C'est non. Par contre, dans le premier degré, jusqu'au CM2, ben là, évidemment, les villes prennent en charge. Mais là, c'est dans la répartition, là, nous aussi, il n'est pas question de remettre en cause, d'ailleurs, ce volet-là. Donc on est confronté à ce genre de situation. Ça, c'est quand même un petit problème. Donc, moi, j'ai écrit effectivement au président du département pour lui dire, écoutez, allez-y, mettez ce qu'il faut à la place de la ville de Saint-Malo. La réponse est un peu embarrassée, quand même. Hein. C'est, voilà. Hein.
on nous explique que c'est déjà affecté, que ça a déjà été donné, c'est dans quelque part déjà un bon. Mais là, ça ne va pas nous satisfaire, cette réponse-là. Hein. Je pense que c'est aujourd'hui au département de faire ce qu'il faut pour compenser, pour ajouter ce qu'il faut à ceux qui se trouvent dans cette situation-là. Mais nous, il faut bien que nous avancions, quoi. Parce que sinon, on va se retrouver face à des situations de cette nature. Bon, en plus, j'ajoute, en fait, fidèle à la politique que nous conduisons toujours d'ailleurs, on ne fait pas de différence à Saint-Malo entre l'enseignement public et l'enseignement privé. On fait pour les deux. Alors ça, ce qui est un autre sujet, suivant les villes, ça peut être différencié. Donc moi, je ne veux pas faire de différence non plus, à la fois quand on donne ou quand on enlève. Donc ça, il faut que les choses soient bien claires. Donc nous sommes dans cette situation-là. Voilà. Oui.
Est-ce qu'on peut quand même imaginer, pour que nous puissions effectivement faire rendre raison au département, éventuellement même ensemble, d'avoir un sursis sur la mise en place de cette mesure permettant effectivement à la fois au collège impliqué et de voir s'il n'y a pas d'autres leviers pour ne pas être trop pénalisé.
Ouais, mais le sursis, si c'est pour l'année scolaire qui vient, l'année d'après, je trouve que ça paraît quand même un peu compliqué. Là, il faut que le département réagisse, quoi. Il n'a pas à attendre, parce que le sursis, il est pour le département, quelque part. Hein, moi, je trouve que c'est à lui de prendre les décisions qui conviennent. Hein. Voilà, ce ne sont pas des décisions agréables à prendre, ça. Hein, en plus, elles ne sont pas comprises, parce que... Pour les parents, pour les enseignants, c'est la ville qui veut couper les choses. Mais c'est pas ça, quoi. On fait que se retrouver dans la même situation que toutes les villes de Bretagne, pas de taille importante. C'est la même chose, quoi. Donc, je pense qu'il faut... Moi, je vous demande de mettre un peu de pression du côté du département. Si vous pouvez faire front avec tous les... conseillers départementaux, et pas seulement ceux de Saint-Malo, mais les autres aussi, pour parce que si c'est une question malouine, bon, elle concerne aussi des enfants qui viennent de toutes les communes de votre. Là, ce que je peux vous dire, alors effectivement, la réponse est un petit peu embarrassée, parce que... Mais j'ai une réponse de M. Chenu, datée du 8 juin... 2017. Voilà. Mettez-les sur le bon rail. Oui, monsieur Vessèche.
On parle de combien? De quel montant?
C'est combien par 7 000?
C'est 7 à 8 000 euros par établissement.
Oui, ouais. C'est 7 à 8 000 euros par collège. Oui.
Il y en a 2 à 3 qui sont très... Oui, mais par exemple, Charcot n'est pas impliqué puisqu'ils vont à pied. Voilà. Ouais. Donc, il y en a 3 qui sont totalement impliqués.
Ça concerne le privé et le public, hein, les deux. Hein. J'insiste. Ouais, je ne traite pas différemment l'un et l'autre. Voilà, est-ce qu'on a fini? Oui. Je vous remercie de votre attention et de. J'espère que vous n'allez pas avoir un début de surdité irréversible à cause du début de séance, hein, j'espère. Mais il faut consulter, hein, pour savoir. Hein. Il faut consulter pour savoir. Quoi? Oui. Merci. J'en ai 3 d'un coup, du coup. Là, ça, c'est des délégations à côté. Tiens, je vais, pardon. Délégation Perrin. Pouvoir, pardon. Voilà. Bon. Ça va? Hein?